Alors, bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, bienvenue à cette émission spéciale du magazine Le Journal du Yoga. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Maurice Dobar, l'exaltation du chemin, rêver d'impossible, pour cet homme qui vit dans le yoga, qui est dans le yoga, une inspiration pour plusieurs, puisque les limites corporelles sont devenues sa raison d'être. Aujourd'hui, nous allons aussi entendre des témoignages au sujet du yoga Tummo, le yoga que M. Maurice Dobar enseigne depuis plusieurs années. En l'occurrence, Patrick, son fils, et Madame Séverine Chaillet. Monsieur Dobar, Monsieur Maurice, vous m'avez mentionné avant d'enregistrer cette émission que je devais enlever le monsieur. Donc, Maurice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous aussi. Et c'est plus
Maurice,
simple de m'appeler par mon prénom, oui.
bien oui, Maurice.
Très touché. Je suis très touché par votre invitation.
Ah ben c'est le plaisir
Je
et
serais
l'émotion.
content de vous rencontrer un jour.
Et voilà, et voilà. Et pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais tenter de faire un léger survol de vos accomplissements, de ce que représente le yoga pour vous. Et par la suite, ben naturellement, ce serait bien apprécié si vous preniez la relève, puisque de vous présenter, mon Dieu, je pourrais prendre un bon 30 minutes. Vous avez quand
Je vous en
même
prie.
Vous avez quand même fait beaucoup de choses. Alors, Maurice Dobar est un homme au sens simple du terme extraordinaire. Cette description qui nous vient de Patrick nous parle d'un homme extraordinaire donc, dont le parcours hors du commun lui a permis de vivre de multiples expériences, toujours en relation avec l'humain et la nature. Je pourrais continuer avec une lecture ainsi de votre ouvrage, Monsieur Maurice, Maurice tout court. Par contre, je voudrais continuer cette présentation qui m'a été beaucoup transmis par les témoignages qui m'ont été communiqués part et d'autre, et ça se résume en un mot. Vraiment, j'ai cette impression aussi, parce qu'on s'est parlé quelques fois auparavant, et ce mot, c'est la générosité. Maurice, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Je sais pas trop ce que je dois dire, mais enfin, il y a tout de suite une parabole qui me vient, parce que mon gourou, c'est Jésus-Christ. Et je pense que dans son inspiration, que ce que ça représente pour moi, le monde a plus besoin d'amour que d'intelligence. Et je pense que à l'âge que j'approche 87 ans, je ressens que de plus en plus, c'est à partir de l'intuition du cœur que tout démarre, quoi, dans la vie et avec les autres, avec tout ce qui vit, que ce soit la nature, les plantes, les animaux. Déjà, voilà, il y a une intuition qui se développe et en fait, il faut. En fait, c'est pas une question d'âge, mais on doit garder cette activité constante, quoi. Si on la perd, c'est pas une question d'âge en fait. Il y a des gens jeunes qui sont déjà vieux avant l'âge.
Et donc, Maurice, pour mettre les gens en contact dans les années 50, vous avez été frappé, bon, c'est un terme que j'utilise, vous avez donc été atteint de la tuberculose et on ne vous donnait pas grand temps. Pour survivre, pour vivre. Et vous avez vécu une transformation intérieure. Vous avez rencontré un moine qui était dans un lieu de repos, un lieu de
Sanatorium.
villégiature, un sanatorium exactement, qui vous a invité comme ça, tout bonnement, à pratiquer le yoga parce qu'il revenait d'un voyage en Inde. Est-ce exact?
Non, il travaillait en Inde comme missionnaire, et comme il était tuberculeux, il est revenu et il a eu 7 côtes en moins, une thoracoplastie, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque. Et il est resté donc infirme toute sa vie et il est devenu le moine du monastère. Et donc, avec moi, quand il est venu me voir sur mon lit, enfin, que j'étais allongé, quoi, il m'a parlé de, voilà, tout ça. Et puis, moi, je lui ai dit que c'était le yoga qui m'intéressait. Et lui, il a commencé par me venir avec un livre en parlant du yoga mental qu'il avait rencontré. Donc j'ai commencé par le yoga mental et je vais abréger, je ne vais pas parler de ça sans arrêt. Mais pour moi, le fait d'avoir été au sanatorium, j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire. Disons que c'était une nouvelle naissance. C'était une naissance numéro 2. Parce qu'avant, bon, je vais parler de ma vie enfant, mais quand on est né en 1930 de parents pauvres, bon, et à partir de là, j'ai évolué. Et je peux dire que beaucoup plus tard, quand un médecin a dit de moi, il a dit Maurice Aubard est devenu anormalement normal. J'ai pris conscience vers 40 ans que tout se passait était derrière moi. Et je me suis retourné pour faire un signe de remerciement du passé. Quelle chance j'ai eue. Toute dépréciation, ça m'a. Je n'ai une parabole. J'ai beaucoup de paraboles qui suivent ma vie. Toute dépréciation d'ordre physiologique ou psychologique devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Voilà. Et parce que si on souffre de rien, pourquoi on changerait? Mais si on souffre de quelque chose, plutôt que de rester dans je suis pauvre, persécuté, j'ai pas de chance, regardez, c'est la faute de tout le monde sauf la mienne. C'est que, à partir de. J'ai décidé, à ce moment-là, en survie, de décider de dire deviendrai responsable de tous mes actes, à partir de maintenant, et j'accuserai personne d'autre de mes échecs. Vous voyez, tout ça, c'est des paraboles qui suivent ma vie et qui ont une profondeur de racines formidables. Et je remercie le ciel de m'avoir donné ces difficultés parce qu'elles m'ont permis d'évoluer. Toute dépréciation devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Et ça, c'est parce qu'à ce moment-là, on fait, comme on dit dans le yoga, un sankalpa pour devenir l'inverse par une image très positive de soi-même qui va du conscient au subconscient et une manifestation matérialisée dans notre être. Et c'est vraiment efficace. Et c'est ce que j'enseigne. Il n'y a pas de yoga possible sans le sankalpa. Sinon, c'est de la gymnastique, que ce soit respiration, relaxation, et tout, et tout. C'est ce que j'enseigne avec une grande foi. Si on perd la créativité, c'est la sénilité qui s'empare de nous. Mais si on vit dans son cœur, je ne veux pas oser dire spirituellement, eh bien, tout est permis. Et autrement, on est sénile. Il y a des gens qui sont séniles. Et moi, je prie pour garder cette créativité jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, en gros, voilà ce qui est un peu mon bout de chemin. Et bien sûr que j'ai rencontré. Parce qu'il est dit aussi dans le yoga, quand l'élève est prêt, le maître arrive. J'ai toujours rencontré les gens qu'il fallait, que inconsciemment j'attendais sans le savoir. C'est fabuleux. Et ils m'ont aidé pour faire un bout de chemin. Et puis, à partir de là, c'est une évolution. On est sans arrêt, on fait des naissances sans arrêt, et on s'éloigne du passé. On change de voie, on change de chemin, il y a des carrefours, on évolue. Et ça, c'est ce que je ressens. Et c'est un peu le but de mon yoga que j'enseigne pour les autres. Et voilà, en général.
Et voilà. Et voilà. C'est tellement bien dit, c'est tellement bien simple et combien profond, combien beau ce message que vous transmettez, Maurice. Parce que, pour mettre les gens en contexte, quand vous parlez de maîtres qui viennent sur votre chemin, dès votre jeune âge, vous avez rencontré une dame qui était dans un café.
C'est comme ça, Daniel, parce que j'ai rencontré un homme alors que j'étais encore pas guéri de la tuberculose et qui m'a parlé il m'a parlé du foie, qu'il avait entendu parler. C'est quelqu'un qui travaillait dans la non-violence. Et c'est vraiment une personnalité qui est tombée pile poil. Je ne savais pas nager, il m'a fait nager dans l'Allier, le fameux hiver 56. Mais j'ai cru que j'allais mourir, parce que les médecins m'ont dit, surtout, prends pas froid. Ne prenez pas froid, parce que c'est dangereux quand on est tuberculeux. Et j'ai nagé, que l'Allier transportait des glaçons, Daniel. C'est fabuleux. Et je dis, mais je vais mourir. Et j'en suis pas revenu. Et après, il m'a quitté au bout d'un mois ou deux parce qu'il était nommé ailleurs. Et bien, voilà le gourou je l'attendais sans savoir. Et je n'ai pas arrêté, c'était en 56. En 56, le fameux hiver 56. Vous en entendrez parler cet hiver qui était connu. On a eu des moins 30. C'était terrible. Eh bien, j'ai pas arrêté de travailler et je me suis construit justement à travers ce travail. Et j'ai trouvé aussi quelqu'un, c'est l'abbé Simon avec lequel je plongeais. J'ai plongé plus tard de 30 mètres, d'auteur, 32 mètres j'ai fait, et qui m'a dit, ah, vous voulez être le soldat de Christ, il faut vous imposer les pires disciplines. Travaillez. Et puis après, une rencontre par les livres de Shivananda qui a dit, sortez tous les jours, par tous les temps. Et il a dit, un yogi doit pouvoir courir 50 kilomètres dans la journée. Et moi, j'ai couru du matin au soir pour m'endurcir. Et il y avait des jours où j'étais tellement fatigué, je ne pouvais plus rentrer à 10 kilomètres de la maison après avoir nagé dans un étang. Je prenais un bâton dans une branche et je me tapais dessus pour la dualité. Avance, tu étais bon à rien, vas-y. Et je me tapais, je m'insultais. Et l'autre répondait, mais ça va pas, tu me fais mal, abruti. Oui. Et puis, mais j'ose plus le dire parce que les gens ne me croient pas. Et puis finalement, voilà. Donc j'ai nagé du matin jusqu'au soir aussi. Enfin, je me suis construit, vous savez, enfin, vous avez vu sur Internet tout ce que j'ai fait. Je suis imposé des disciplines très dures pour me construire, pour me fortifier. Et je pense que moi, j'avais rien pour moi. J'avais ni un cœur costaud, rien. Tout était déficient. J'ai un tiers du poumon en moins. Et j'ai quand même fait des performances. Alors, quand j'ai travaillé avec l'armée, pendant 4 ans, j'ai collaboré avec l'armée française, le colonel Beatle à l'époque, à cause du froid. Ils m'ont mis dans des frigos, pour étudier mon cas. Et il a dit aux journalistes, je n'ai rien trouvé en Maurice Daubin, rien. Il s'attendait à trouver une sorte de Rambo, des choses formidables, rien. Que la grande force de son mental. J'ai crié « Om Namah Shivaya », oui, parce qu'il vaut mieux que je sois un fragile qui a tiré ses forces de son mental qu'un Rambo. Alors, parce que les gens diraient « Oui, oh bah oui, mais oui, avec la force qu'il a, le cœur qu'il a, il est à part, c'est quelqu'un d'extraordinairement costaud. » Je préfère avoir été fragile, parce que c'est plus exemplaire pour moi. Je ne veux pas dire que je méprise les gens costauds, au contraire, mais bon, voilà. En fait, je pourrais dire, ben voilà, j'ai tout dit à partir de là. Et peu à peu, la vie, c'est des naissances sur naissances, quand on franchit des carrefours, des expériences, et puis on arrive à chercher à comprendre quel est le sens de la vie, pourquoi la mort, etc. Et on essaye de se mettre en accord dans la nature. Alors j'en profite pour vous inviter, Daniel, l'hiver prochain, avec nous, en Italie. Venez donc, je serai heureux que vous veniez. Voilà, je vous invite avec une caméra à filmer un peu tout ce qu'on vit.
Et voilà.
Là.
Merci beaucoup de l'invitation, Maurice. C'est très généreux de votre part. Et je ressens justement le besoin de schématiser, de faire des
Oh, je veux vous
thématiques.
rencontrer, j'ai envie de vous
Et,
rencontrer. J'ai envie de vous connaître, Dan.
et quand on s'est
Le
parlé la
monde a
première
plus besoin
fois.
d'amour, je dis, que d'intelligence. Et je vous sens dans une grande sensibilité
Ah
de
oui,
cœur, vous aussi.
absolument. Et voilà.
Non, non, mais c'est vrai.
Et oui, et
Et
puis
vous
vous le
savez, écoutez, je
ressentez comme ça à
termine avec cette phrase.
distance.
Vous savez, ce que j'ai découvert après, grâce au chemin, à ce parcours, j'ai découvert l'exaltation. L'exaltation. Patrick, justement, m'a demandé un jour, mon fils, quel est le mot? Parce qu'il est professeur de français, de civilisation française, à Rio. Il me dit, quel est le mot? J'ai dit l'exaltation. Et ça, c'est ce que j'ai découvert grâce au fait que, de mes souffrances de ma jeunesse, grâce au fait que j'ai travaillé pour. Alors, bien sûr qu'après, le bénéfice, c'est qu'on rencontre un carrefour d'exaltation. Il faut Syrah, accompagné de Syrah, la fermeté. Parce que sinon, on a envie d'embrasser tout le monde. Quand je sors, je me retiens grâce à Styra, parce que les gens, si vous les agressez dans la rue, ils trouvent normal presque, mais si vous les embrassez, ceux que vous ne connaissez pas, ils ne comprennent pas. Alors on est obligé d'employer Styra, la fermeté, parce que c'est difficile de résister. Et j'irais, je dirais même qu'on devient toute personne qui porte cette exaltation-là, eh bien, elle devient le pharmacien et le médecin des autres. Parce qu'il y a une étincelle dans le regard, parce qu'il y a un timbre dans la voix, parce qu'il y a un gestuel qui l'accompagne. Et le monde a besoin plus d'amour que d'intelligence, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et ça, c'est bien, parce que on a perdu notre charisme. Mais quelqu'un qui a du charisme, on change de trottoir pour le voir. Voilà. Et il faut. Voilà, c'est le fruit obtenu par tant d'années de travaux, de s'imposer des disciplines strictes.
Au service des autres,
Je
que
pourrais
je vais
dire que.
ajouter. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui était au service des autres. Patrick me mentionnait que c'était chose courante pour vous d'accueillir des gens malades, mais pas seulement pour une nuit, deux nuits, pour les accueillir jusqu'à ce qu'ils reprennent leur chemin, mais des fois des mois, vous allez accueillir, vous allez aider des gens comme ça qui ont besoin d'aide de façon tout à fait détachée. Hein. On parle de karma yoga. Pour vous, Maurice Debord, le karma yoga, ça a dû être une expérience difficile. Les gens de l'extérieur, dans le village où vous demeuriez, vous prenaient pour un huberlu. Comment vous
Non, mais ça
avez
n'a pas été
géré?
facile pour mes enfants non plus.
Oui,
Parce
comment
que
vous
vous
avez
savez,
géré tout
des
ça
gens sortaient de
au fil des
prison,
ans?
j'avais des gens de l'hôpital psychiatrique, tous les gens qui étaient des clochards. Enfin bon, puis bon, oui, mais enfin ça, c'est normal. Enfin, c'était du passé, mais enfin, c'est vrai que. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme jeune, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu regardes le pauvre, c'est moi que tu regardes. Mais qui est le pauvre? C'est le rejeté, c'est l'alcoolique, c'est le drogué, c'est celui qu'on rejette parce que on le regarde pas, parce qu'il nous dérange. Alors, quand on vit ce qu'il a dit et qu'on voit les racines qu'on en récolte, la philosophie qu'il y a dedans, mais c'est beaucoup plus riche que la parabole, parce qu'il y a des racines profondes. Voilà. Enfin,
Je vais
pas trop
rappeler
parler de tout
aux
ça parce
gens
que je vais pas
qui,
avoir l'air d'être mieux
bon,
que les autres.
non, non, non,
Mais
non, mais c'est quand même,
c'était comme ça.
ben oui,
C'est
c'est
comme ça que
ça.
je l'ai vécu.
Ouais, je vais rappeler aux gens qui nous écoutent que nous sommes sur la radio web du magazine Le Journal du Yoga et qu'on peut obtenir des renseignements additionnels au sujet des stages, au sujet de Maurice Dobar, notre invité, sur son site web. Et donc, je vais épeler votre nom, votre site web, et si je fais une erreur, peut-être juste me corriger. Donc, c'est Maurice, MAU. RICE DAUBARD.com. Est-ce exact, Maurice?
Oui, c'est ça, oui.
Et naturellement,
Oui.
sur Yoga Partout aussi, nous avons créé un espace. Vous êtes très, très accessible. Les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Vous
Suis
avez
pas en rouge.
voyagé. Pardon?
Je ne suis pas en téléphone rouge parce que, mais enfin, je
Ouais.
peux pas faire de la pub, mais je veux que les gens qui sont en perdition ils puissent m'appeler même à 2 heures du matin, mais
Et voilà.
faut pas en faire de la pub parce qu'après je dormirai plus.
Et vous avez pratiquement fait le tour du monde, 103 pays, des expériences scientifiques. Vous avez servi, comme ça à des équipes scientifiques qui voulaient comprendre le phénomène du tumo, je m'excuse,
Oui.
TAUMO,
Oui.
alors que en réalité, tout sur le Sankalpa. Votre Sankalpa à vous, est-ce qu'il a changé? Est-ce que c'est une décision, un souhait qui a souvent vécu des transformations ou ça a toujours été une inspiration qui, par exemple, dans vos ouvrages, vous faites souvent des liens, par exemple, au niveau des numuphars et les chakras de votre rencontre avec Madame Patricia. Dans votre livre, L'exaltation ainsi que Rêver d'impossible, le Tshankalpa transpire vos écrits. Pour vous, ça veut dire quoi un Tshankalpa?
Ben, il y a plusieurs formes. Il y a celui que se sert l'enseignant qui formule dans une posture, par exemple pour apprendre à tomber ou diversité, quoi, qui correspond à un lieu précis du corps. On met un sankalpa avec. Ça, c'est. Voilà. Et puis il y en a d'autres, c'est les priorités au quotidien. Tout, voilà, on pourrait le caractériser par toute démarche mérite concentration. Et on s'installe, on respire, on élimine les pranayamas, on élimine toute la déchetterie, ensuite on se concentre, et puis on converge un peu comme le. Si vous voulez, tout se retrouve dans les arts martiaux, un karatéka est capable de casser des briques. C'est des lois immuables dans l'univers. S'il y a un doute, s'il y a. Eh bien, c'est la main qui casse et la brique n'a pas de mal. Il peut y avoir un match nul, mais s'il y a vraiment l'esprit du kyaï, du cri, vous voyez, du cri qui vient du centre, d'énergie. Je suis ceinture noire du judo aussi. Et j'ai travaillé le kyaï. Mais donc, je fais travailler ça aussi à mes élèves, la respiration concentrée qui converge vers la réussite. Alors, selon les priorités au quotidien, toute démarche mérite de concentration. On se met dans l'attitude juste, c'est-à-dire de Siddhasana, qui est une posture parfaite, bien droite. La colonne bien droite avec les vertèbres qui écrasent plus les disques comme on est dans le vieillissement prématuré. C'est ce que je fais travailler à mes élèves. Toujours comme dans le foie. On va faire Chandrasana dans le foie qui est le croissant de lune. Assis, on va étirer la colonne alors qu'on a envie de se mettre la tête dans les épaules. Et puis comme a dit le
De
professeur
grelotter.
Tissier, la tristesse est en flexion vers l'avant, la joie est en extension. Voilà, il faut apprendre aux jeunes, je l'apprends, aux jeunes filles, je leur dis des choses comme ça. Toute démarche mérite de concentration. Je leur dis de rêver. Je leur dis, il faut rêver, mais attention à tes rêves. Voilà
Parce
ce
qu'ils
que je
vont
dis
se
aux gens.
réaliser.
Oui, il faut rêver. Oui. Ça commence toujours par le Sankalpa, c'est un rêve éveillé. De devenir l'inverse dont on souffre. Ou un truc à obtenir. Alors c'est varié, ça peut être rapide, ça peut aller rencontrer quelqu'un et avoir dans l'entretien, être se subjuguer soi-même pour être calme avec l'enseignement de Ahimsa, la non-violence de Gandhi. Pas du tout d'agressivité, mais beaucoup de fermeté, quand même. Pas de fragilité. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Mais sans agressivité, sans violence. Comme Gandhi nous l'enseignait. Ahimsa, la non-violence.
Et voilà.
Et puis, fermeté, très calme, devenir phlegmatique. Pas d'impulsion, rien. Tout ça, ça, on peut devenir l'inverse dont on souffre, à condition de rêver. Nous devenons ce dont nous rêvons. Voilà encore une parabole que je souligne aux jeunes et je leur dis de mettre dans leur cahier de jeune homme et de jeune fille, souligner à l'encre rouge et mettre en dessous attention à tes rêves. Et attention à nos rêves.
Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous me permettez, nous allons faire une légère pause pour justement écouter le témoignage d'une de vos élèves. Ah ben vous, oui, tout est en tout, naturellement, sauf que on n'a pas parlé encore de vos voyages. Vous avez été en véhicule tout terrain dans les Himalayas. Votre cursus sportif, il est plus grand que celui de votre profession de maître en yoga, de professeur de yoga, de bénévolat et tout. Donc, si vous me permettez, Maurice, nous allons écouter le témoignage que nous avons recueilli d'une de vos élèves, Séverine Chaillet. Séverine Chaillet, pour
ma
vous...
meilleure élève au féminin.
Pardon?
Elle est ma meilleure élève au féminin.
Et qu'est-ce qui vous
elle
fait
dire que
c'est...
Elle est vraiment bien. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment profond.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que moi aussi, j'ai ressenti cette authenticité. Il n'y a pas de fla-fla.
C'est
vraiment
du caractère,
là...
très forte. Elle a été mon élève pendant 4 ans pour être professeur de yoga et elle arrive à faire des postures, les pieds sur la tête, etc. Quoi. On a travaillé, elle vous le dira. Elle est vraiment bien.
On l'écoute.
C'est un bon choix de votre part.
On l'écoute. Et on revient tout de suite après ce témoignage qui est d'environ une quinzaine de minutes. Donc, à tout à l'heure.
Oui.
Alors, bonjour Séverine.
Bonjour.
Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer sur la web radio de Yoga Partout et de discuter de yoga, puisque c'est le sujet qui nous passionne le plus. Séverine, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter, nous donner un aperçu de votre chemin qui vous a amené jusqu'à Maurice Daubard?
Donc moi, le chemin qui m'a amené à Maurice Daubard, donc j'ai débuté en fait pas par le yoga, mais par le Tai Chi Chuan dans les années 2000. Et puis après, j'ai aussi pratiqué des arts martiaux, le Kung Fu. Et en fait, c'est mon Sifu d'arts martiaux qui m'a fait rencontrer Maurice Daubard. Donc je connaissais moi très peu le yoga avant ma rencontre avec Maurice. Et cette rencontre, pour moi, ça a été vraiment magnifique. J'ai découvert une personne... tellement rayonnante, sincère et enthousiaste que ça m'a vraiment donné envie de poursuivre, surtout au niveau du Tummo qui a été une réelle révélation pour moi. Donc je me suis engagée dès cette rencontre avec Maurice, vraiment corps et âme dans cette discipline. Enfin, dans cette discipline, non, pour moi c'est pas une discipline, c'est la vie. Le yoga c'est la vie, pourquoi ? Au départ c'était une discipline parce que je connaissais pas, aujourd'hui c'est vraiment... C'est la vie, ça fait partie de la vie, c'est en même temps un outil et le but vers lequel je souhaite aller, ce but, cette harmonie que cet outil m'a permis de, voilà,
et voilà,
de
et
découvrir.
Voilà. Et donc vous enseignez le yoga Tummo et enseignez, vous êtes sur ce chemin du yoga à temps plein?
Non, malheureusement, non, pas à temps plein. J'ai d'autres activités à côté, mais j'y consacre. Moi, pour moi, personnellement, c'est tous les jours, c'est à chaque instant. Je dirais même dans mon travail, dans mes autres activités, je suis en état de yoga.
Et voilà. Et
Voilà,
voilà.
c'est pas seulement quand je vais être avec mes élèves ou quand je vais être dans un cours, dans une salle, sur un tapis, c'est tout le temps, à chaque instant.
Et voilà.
Sinon, le yoga perd toute sa substance. Sinon, si c'est juste pour être voilà, quelques heures par semaine, vraiment le but, c'est d'être tout le temps dans cet état magnifique.
Et voilà. Et cet état magnifique, on en a parlé avec Monsieur Maurice, avec Monsieur Dobar, de ce Shankalpa, de ce souhait, de cette intention. Pour vous, ça a été un point culminant dans votre démarche spirituelle. Seriez-vous prête à dire même que vous avez risqué votre vie en faisant confiance à Monsieur Dobar?
À aucun instant, j'ai eu la sensation de risquer ma vie, vraiment à aucun instant, parce que j'ai tout de suite ressenti chez lui, voilà, il y a tout de suite eu de la confiance, avec un grand respect. Donc j'ai jamais, à aucun instant, je me suis dit qu'il pouvait me faire risquer ma vie. J'ai vraiment jamais ressenti ça, même dans le tummo qui peut, a priori, voilà, les enneigements, les bains froids. Au départ, moi, j'avais jamais fait ça, je n'en avais jamais entendu parler. Mais à aucun instant, j'ai eu la sensation de risquer ma vie. Aucun instant.
Et pourtant, les personnes qui observent de l'extérieur cet extrémisme de yoga qui tient ses origines tibétaines seraient portées à dire que vous avez carrément pris des risques.
Mon entourage, au départ, hein, parce que c'est des personnes qui connaissait encore moins que moi. Combien de fois j'ai entendu, parce que moi je me baigne tous les matins depuis ma rencontre avec Maurice, combien de fois j'ai entendu, mais tu vas mourir, t'es complètement folle, enfin j'ai eu droit à vraiment la totale. Après, voilà, il faut rester humble, il faut expliquer pourquoi on le fait simplement. Et puis, ils ont surtout vu les effets. Moi, j'étais quelqu'un qui était souvent malade, j'avais un système immunitaire très fragile. Depuis que je pratique, je n'ai pas été malade une seule fois. Je n'ai eu, voilà, depuis mes premiers bains, donc j'ai rencontré Maurice fin 2008, j'ai commencé mes stages en montagne tout début 2009. Depuis cette date, je n'ai jamais, jamais, jamais eu aucun effet secondaire négatif, c'est que du positif.
Et voilà.
Vraiment que du positif à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau du mental, à tous les niveaux. Donc forcément, les gens de mon entourage, ils voient bien que c'est du positif. Ils se posent quand même des questions parce que pendant qu'eux sont malades, ont le nez qui coule, moi, c'est malgré ma discipline qui peut leur sembler extrême, je suis en pleine forme. Donc forcément, aujourd'hui, après des années de pratique, ils viennent plus me dire, ah ben t'es complètement folle. Ils sont intéressés, vraiment intéressés. J'ai pas mal de collègues aujourd'hui, et bon, ils n'en sont pas allés s'enneiger, mais qui prennent des douches froides, qui goûtent même à l'eau froide dans des rivières. Vraiment, ça les intéresse.
Et
Ça les
voilà.
intéresse.
Et voilà. Et donc, vous êtes la preuve. Vous êtes une des preuves. Parce que Maurice Dobar, il rayonne
Ah
en
oui.
yoga vraiment de façon internationale. Une anecdote, quelque chose qu'est-ce qui vous a fait vraiment décider de suivre ce maître spirituel, parce qu'on parle maintenant là vraiment d'un être accompli. On entend souvent toutes sortes de qualificatifs, sauf qu'au fond, il y a une démarche d'authenticité. Une anecdote vous reliant au yoga tummo, s'il vous plaît, Madame Séverine Chaillet.
Alors en fait, moi, ce qui m'a fait décider à le suivre, ça a vraiment été, c'est la première rencontre. Moi, la première rencontre, ça a d'abord été conférence. C'était un soir et j'ai vraiment vu quelqu'un de, voilà, sa détermination, vraiment le regard qu'il a quand il raconte ses expériences. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui parle de ses expériences, c'est pas des choses qu'il a vues dans les livres. J'ai rien à contre lire des livres, j'en lis moi-même. Mais vraiment, lui, ce qu'il partage et ce qu'il donne, il donne tout, il donne ce qu'il est, il donne toute son expérience et elle est immense. Et ça, on le voit tout de suite quand on le rencontre. Et moi, cette détermination, cette exigence, c'est quelque chose qui me parlait. Et le tummo, quand j'ai eu goûté à cette discipline, ça a été une révélation pour moi, une révélation. Et après, à travers le tummo et à travers d'autres expériences avec Maurice, tout ce cheminement avec lui, j'en suis arrivée à un point où j'ai supprimé de mon vocabulaire le mot impossible. Pour moi, ce mot n'existe plus. C'est terminé. Et il y a une anecdote, mais c'est une anecdote en fait qui s'est pas passée dans le tout mot, mais pendant un cours particulier qu'il me donnait dans mon cadre de ma formation de professeur de yoga. Donc, quand j'ai commencé, bon, faut savoir que les postures, voilà, pour, c'est une toute petite partie du yoga, mais moi, j'en avais pas une. J'avais pas du tout de souplesse. Enfin, je pensais ne pas avoir de souplesse. Et un jour, en début de séance, Maurice me dit, maintenant, passez-moi votre lotus. Alors, moi, le lotus, pour moi, c'était la quatrième dimension, totalement inaccessible. J'avais déjà du mal à m'asseoir en tailleur, donc le lotus, c'était impensable. Donc, je lui ai montré. J'ai dit, mais regardez, moi j'en suis très 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 loin. Moi, les genoux ne touchent pas par terre, c'est une catastrophe. Et donc on est passé à d'autres postures. Il m'a fait travailler, mais vraiment d'autres choses. Et puis un petit moment après, on est revenu. Et puis il me dit, bon, et ben maintenant je vous parie, je vous passe votre lotus. Et je vais vous le passer, et vous le passerez toute votre vie. Là, j'ai regardé, je me suis dit, bon. Ok, je lui fais confiance, il a accepté que je sois son élève, je ne suis pas là pour lui faire perdre son temps, donc on y va. Je l'ai laissé faire, je lui ai fait confiance, et il m'a passé mon lotus. Donc moi, j'ai, pour ainsi dire, j'ai coupé le mental, j'ai dit je le laisse faire. Donc il me l'a passé, vraiment, c'était, il n'y avait pas de force, pas de violence. Mais il me l'a passé. Et il m'a dit maintenant... Vous allez le passer toute seule et vous le repasserez toute votre vie. Donc, il m'a fait sortir de la posture. On a attendu quelques minutes et je l'ai repassé toute seule. Et depuis ce jour, je passe le lotus toute seule. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, quelque chose qui pour moi était impossible, totalement inaccessible, voilà, c'était possible. C'est mon mental qui me disait c'est impossible. Rien d'autre. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est pas le fait d'avoir passé une posture, parce que ça change pas ma vie de passer le lotus. Hein. Entre nous, c'est rien du tout la posture. C'est vraiment ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je me suis dit, si ça c'était possible, tout le reste est possible. Dans ma vie de tous les jours, tout est possible. Si j'ai des rêves, tout est réalisable. Tout est réalisable. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, voilà, tu as tes rêves, un certain nombre de rêves, on en a tous. Et bien là, tu vas tous les réaliser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu les réaliseras tous. Voilà. Et depuis, ben, et ça marche. C'est ça, sans kalpa, c'est ça la puissance de la pensée positive, c'est que ça marche.
Et voilà.
Ça marche bien. Et ça, c'est pour moi l'enseignement de Maurice Daubard. C'est la pensée positive, c'est le sans kalpa. Voilà. C'est je deviens ce dont je rêve, je suis ce dont j'ai toujours rêvé.
Et voilà. Voilà. C'est un beau témoignage que vous faites à l'endroit de Monsieur Maurice Daubard. Séverine Chaillet, en terminant, peut-être un petit mot adressé à lui, puisque cette émission a été enregistrée séparément. D'habitude, sur Yoga Partout, on retrouve des entrevues intégrales qui rassemblent plusieurs personnes en même temps sur Internet, sauf que ce n'était pas possible étant donné les horaires de chacun et chacune. Oui. Premièrement, vous êtes situé à quel endroit en France, d'ailleurs?
Moi, je suis pas très loin de Besançon, dans l'est de la France.
D'accord. Oui. Alors, peut-être un petit mot d'encouragement pour les personnes qui ne connaissent pas cette voie du yoga, cette voie royale qui mène vers l'éveil, qui mène vers la réalisation, qui mène vers l'accomplissement. Un mot d'encouragement en même temps, peut-être une parole pour Monsieur Daubard aussi. Oui. Je vous laisse le dernier mot.
Et bien, après, la seule manière de découvrir toutes ces merveilles, tout ce bonheur qui est à portée de main, à portée de tous, ça ne demande pas un niveau exceptionnel, vraiment tout le monde peut découvrir le yoga, peut découvrir le tummo. Il suffit pour ça de le vouloir, de rencontrer les bonnes personnes qui peuvent nous accompagner. Je pense surtout au tummo, parce que pour la pratique du tummo, c'est vraiment important d'être guidé par quelqu'un qui a de l'expérience. Et en l'occurrence, je pense, enfin, je suis persuadée, pour moi, Maurice Daubard est le grand maître en la matière. Moi, il m'a accompagnée, il donne tout, hein, il cache rien, c'est vraiment, il donne tout et avec le cœur. C'est une expérience, quand on est guidé par un maître de cette qualité, c'est une expérience exceptionnelle. C'est vraiment fantastique. Moi, à l'heure actuelle, donc je pratique tous les jours, il n'y a pas un seul matin dans ma pratique de tout mot où je ne pense pas à lui, il est avec moi tout le temps. Il est dans mon cœur, il le sera toujours. Même si, malheureusement, actuellement, je le vois un peu moins que lorsque j'étais en formation, c'est toujours un immense bonheur de le retrouver. Un immense bonheur, et je pense à lui très fort en ce moment et régulièrement. Il le sait, il sait à quel point il compte pour moi. Et voilà. Donc j'encourage vraiment les personnes. Il faut goûter. Après, on peut en parler pendant des heures, mais tant qu'on n'a pas goûté, voilà, on peut pas s'imaginer derrière toutes les belles choses qui se cachent derrière le yoga, derrière le tummo. Voilà.
Alors voilà, nous avons entendu ce témoignage de Madame Séverine Chaillet, une des nombreuses élèves de Maurice Daubard. Je rappelle aux gens qui sont à l'écoute que cette entrevue est diffusée dans 55 pays francophones grâce aux nouvelles technologies de l'Internet. On dit souvent, Maurice, que les technologies des fois nous envahissent. Elles ne servent pas nécessairement toujours des bonnes causes et tout au contraire, voilà un émerveillement. Moi, je suis toujours très touché quand je peux rejoindre des gens comme ça. Vous êtes si loin, vous êtes situé à quel endroit en France pour les gens qui veulent venir prendre un stage chez vous, comment on s'y prend?
Ah ben c'est varié. C'est une question que vous posez, hein.
Oui.
C'est assez varié parce qu'il y a Internet maintenant. Moi, j'ouvre pas Internet, j'y connais rien. Je préfère ouvrir les hommes. Mais il y a aussi, bon, ben, moi, je suis dans le département de l'Allier, qui est adjoint de l'Auvergne. On est à 100 km de Clermont-Ferrand. Je suis installé, c'est mon choix, dans une forêt de 4000 hectares où, pendant des siècles, des moines ont vécu au Moyen-Âge. Elle s'appelle Saint-Aubin-le-Monial. Le chemin s'appelle la Voie des Moines. Et la forêt de 4000 hectares s'appelle le prieuré de Grosbois. Il y a eu Saint-Fiacre, enfin, c'est pas par hasard que les moines se sont installés ici avant le Moyen-Âge déjà. 6000, je crois. J'ai eu tous les renseignements par Clermont-Ferrand, par les archives de Clermont. Donc c'est intéressant à étudier. Et puis, donc, cette forêt est sacrée. Il y a des. En effet, le CNRS sont venus et on s'est battu comme des chiens à l'époque, si on peut dire, excusez-moi cette vulgarité, mais parce qu'il y a de l'uranium à fleur de terre et ils voulaient faire des mines d'uranium. Enfin, on a gagné la partie à Cogéma, a mis ça au frigo. Alors, moi, j'ai trouvé ce lieu abandonné depuis la guerre. Pas le monastère, mais il y a eu deux moines, je crois, d'après l'historique. Alors moi, j'ai acheté les bâtiments et puis j'ai travaillé pendant 30 ans pour le construire, pour tout refaire et arranger. J'ai fait un plan d'eau, etc. Enfin bon, j'en ai fait un centre de yoga. Il y a ma maison privée d'un côté du chemin, de l'autre côté, c'est tout le centre, cuisine, etc. Avec des chambres, il y a une tour de 14 mètres d'hauteur. C'est très beau. Très relaxant, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de route. Il n'y a qu'un chemin pendant 800 mètres de longueur qui donne les petites routes de distribution de ferme. Enfin, voilà. Ça s'appelle Le Pirolin, Centre international yoga tummo d'inspiration tibétaine et recherche scientifique médicale. Je travaille avec eux, avec les scientifiques. Voilà, puis je donne des cours, je fais de la formation de prof, des stages d'hiver n'ont pas lieu là, ils ont lieu en Italie. Au-dessus d'Aoste, 2000.
Et Maurice, vous demandez toujours avant tout à vos élèves de partager l'enthousiasme, la
Ah
spontanéité,
oui, ça
la
c'est une base,
simplicité,
hein.
le naturel. Pourtant, il y a des gens qui doivent venir vous voir parce qu'ils ont peur. Ils ont une peur et ils ont osé, ils osent aller vers vous en toute
Ah oui.
confiance.
Et c'est à moi. Je donne toujours une parabole au départ que je leur demande de suivre. Comment trouver de la tristesse dans une atmosphère où la joie est partagée comme le pain et où le succès d'un seul est une victoire pour tous? C'est ce qu'on va vivre tous ensemble, je leur dis, avec enthousiasme. Je vous promettez-moi, regardez-moi et répondez-moi tous au départ. Qu'on soit exemplarité, pardon, et expérience envers les gens de l'hôtel quand il s'agit de l'Italie à Ost, envers tout le personnel, envers tous les clients, envers tout le monde. On doit vraiment être attentif, à être exemplaire. Pas de prétention. Toujours cette simplicité. Voilà. Simplicité, naturelle, authenticité. Voilà. Et enthousiasme. Ça, je vous demande, je dis à tous, toujours, l'été ou l'hiver, je demande, toujours, bien sûr, ici, c'est pas un hôtel, chez moi, dans la forêt, où je téléphone aujourd'hui, et c'est pas pareil que quand je vais en Italie, en montagne. Mais je demande aussi qu'on soit attentif à partager cet enthousiasme. Voilà.
Et la
Comment trouver de l'atmosphère
peur, et
dans une
la peur,
atmosphère?
qu'est-ce que vous faites? Comment définissez-vous ces forces de la vie qui sont omniprésentes? Ce sont des lois de la nature. Entre la peur et l'amour.
Bien, il faut s'abstenir, il faut se, pardon, il faut vraiment avoir une discipline personnelle et puis savoir se retirer un peu pour chercher à comprendre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'univers, à quoi ça sert. C'est au dernier moment qu'on a. Mais bon, moi j'exige rien de personne, hein, j'exige tout de moi-même. J'attends pas autre chose. Mais les gens, on essaye de. Ce qui en vient dans le yoga, c'est une culture de connaissance de soi. Il faut apprendre déjà la physiologie respiratoire. On ne sait même pas respirer. Et après, il y a la découverte des courants magnétiques, du prana, qu'on dirige encore une fois. Et puis enfin, l'appareil digestif. Enfin, tout notre corps, on commence comme ça. Tout simplement, on aura des pâquerettes, quoi. Et puis ensuite, eh bien, on évolue. Après, il y a plusieurs formes de méditation. Et tout dépend de la personnalité. Si on est très extraverti, on va être dans le karma yoga. Si on est introverti, c'est pas, il y a pas de maladresse des deux côtés. Il y a seulement qu'un introverti, il sera mûr pour méditer. Il s'isole, il va peut-être aller plus dans cette solitude. C'est pas, tout est bien. Bien sûr, l'extraverti s'expose parce que on sait qu'ils sont devenus. La plupart, on les tue parce qu'ils nous dérangent. Celui qui médite ne nous dérange pas dans une grotte ou dans une forêt. Mais celui qui est extraverti, comme Jésus l'a été, c'est des gens qui sont dans le karma yoga, détachés des fruits d'action. Voilà les buts à obtenir, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais bon, c'est un travail, c'est les bases du yoga pour moi. J'ai pas dit que j'étais la vérité universelle, j'ai dit que non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais pas cette prétention. Je dis que ce sont mes vérités à partir du fruit de mon expérience. Mais il faut pas voir que c'est la vérité universelle.
C'est tellement rassurant de vous entendre parler parce qu'on ne ressent pas qu'il y a de la compétition, à savoir, j'irai pas trop dans cette direction-là parce que il y a tellement de questionnements que je me demande
Pas de concurrence.
à avoir lu vos ouvrages, les avoir parcourus. Par contre, quand on observe la commercialisation extrême de ce que le yoga
Oh là là.
représente pour des entreprises, parfois je me demande si justement il y a des gens, des élèves, des jeunes qui vont comme ça s'embarquer dans un chemin qui parfois n'a pas sa racine profonde, hein? Et vos histoires dans vos ouvrages, dans votre ouvrage et les témoignages que j'ai recueillis et les commentaires des éditions Renaud Cellier du magazine Le Journal du Yoga, du festival, sont tels que on se dit, bien, où est-ce qu'on s'en va avec le yoga? Parce que on est dans une société contemporaine, on est dans la compétition, la performance, alors que lorsqu'on vous voit dans votre ouvrage, des photos à l'appui en haut d'une tour à faire un saut, on lit par la suite et on apprend que tous les argents ont été remis à des organisations caritatives. Dites-moi, Maurice Dobard, ce Sankalpa que vous transmettez, cet instant, on parle un peu des fois de la Bhagavad Gita, hein, cette histoire entre Arjuna et cette décision, est-ce que je fonce, est-ce que je manifeste qui je suis véritablement ou je me retire et je me recroqueville, m'excusez-moi l'expression, comment voyez-vous le futur du yoga?
Eh bien, de toute façon, je pense qu'on a ce qu'on mérite, parce que le public, qu'est-ce qu'il demande en fait? Si vous regardez le mouton noir, c'est un mouton qui n'est pas blanc, et les moutons blancs, ben, ils bêlent sans arrêt, et puis le mouton noir, lui, il dit, nous avons la médecine que nous méritons, nous avons l'alimentation que nous méritons, la politique, les médias, etc., etc., et tout le reste. Alors que nous sommes responsables. Et dans le yoga, c'est pareil. Nous avons que le yoga qu'on mérite en Occident. Parce que les gens veulent plus de bondieuserie, comme ils disent. Et alors, ils veulent faire de la gymnastique. Ils veulent faire de la relaxation, beaucoup de relaxation. Mais ce n'est pas du tout le yoga de l'origine. C'est un yoga occidentalisé. Et je vais pas parler des autres pays. Mais je vise en fait que la France est française. Voilà ce qu'ils demandent. Un cours de yoga, ils veulent donc les professeurs, mais s'ils demandaient autre chose, on serait obligé. Donc en fait, si on perd notre charisme, c'est un peu notre responsabilité de demande. Et c'est à nous d'essayer, ma foi, c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix personnel. Et puis il n'y a pas que l'argent. L'argent est secondaire. Encore une fois, je dis que l'argent, c'est comme un marcheur au soleil, il ne doit pas s'en occuper de son ombre. Et bien l'argent, si on est passionné, si on est vivant, on a suffisamment d'argent. Il ne faut pas en faire un but. Et puis il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Moi, je forme plein de gens ici autour de moi, dans mes élèves, et je les pousse à s'installer autour de chez moi. Je souffre absolument pas de jalousie professionnelle, de peur, de concurrence. Je suis détaché. Il y a longtemps que je me suis détaché de ça. Et bien d'autres choses encore. J'ai pas. Et puis si où je cherche auprès des gens à voir leurs valeurs qu'ils portent en eux, qu'ils n'ont pas conscience, accumulées sous les peurs, sous l'angoisse, l'anxiété. J'essaye de les aider dans leurs valeurs. J'essaye de les encourager. Et je m'occupe pas des défauts, ça ne me concerne pas, c'est pas mon point faible. Je pense que le Christ, moi je lui arrive à la cheville, mais je pense que lui, il raisonnait comme ça, quoi. Quelque part. Mon gourou, j'ai pas d'autre. J'ai plein d'enseignants, si vous voulez, que j'ai eu, mais mon gourou, c'était Jésus. Alors, je ne devrais pas le dire parce que c'est. Mais on m'a dit, si, il faut le dire. Ma foi. Parce que c'est un des plus grands yogis du monde. Quand j'en ai parlé aux Tibétains, quand je suis allé au Tibet, avant, maintenant je ne vais plus à mon âge, mais il me disait, mais qu'est-ce que vous avez, qui est votre gourou? Oh, je n'osais pas le dire.
Oui.
Même les Indiens. Ouh là là, ils joignaient les mains, ils levaient la tête en l'air. Oh, c'est bien, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez étudié comme écriture? Ben, je dis le Deuxième Testament. Oh, c'est très bien, vous avez besoin de rien d'autre. Alors j'avais l'encouragement des Tibétains, des yogis indiens, qui m'encourageaient, disaient, oh, mais c'est bien, ça suffit. C'est un très bon yoga que celui du Deuxième Testament. C'est profond. Mais je ne suis pas assez bien pour être yogi, ni bouddhiste, ni lama, ni rien. Je ne suis pas tout ça, parce que j'ai trop de défauts. Et souvent, je parle de mes défauts comme ça après. Mais je dis aux gens, attention, maintenant que j'ai donné tous mes défauts, je ne vous permets pas de douter de la valeur, de la générosité de mon cœur.
Et pourtant, Maurice Daubard, auteur de l'Exaltation du chemin, Rêver l'impossible, vous avez fait des exploits de toutes sortes, extrême chaleur, extrême froid, et j'en passe, expédition, mon Dieu, au Brésil, dans le désert, le marathon des sables. Vous avez été à Jérusalem,
Ah
pour
ben oui,
faire
le
du
chemin du Christ.
pèlerinage.
Ah, il fallait que je le fasse, oui.
Eh ben oui,
Et puis
j'imagine.
l'opportunité arrive. Elle est arrivée. Et j'ai fait ça. Le chemin du Christ, je l'ai fait gratuitement. Israël m'intéressait que pour ça. C'est pas que je méprise les Israéliens ni les Palestiniens, mais c'était ce qui m'intéressait, le chemin, le parcours. Quand on m'a demandé, qu'est-ce que vous voulez, Maurice Aubard? On m'a dit à Tel Aviv en arrivant, j'ai dit, partout avec Jésus. Oh, bah oui, il a fait du chemin. Alors, j'ai été un peu partout en pèlerinage et j'étais heureux au-dessus du lac Tibériade, là où où il y a la nativité, dans les grottes. Il y a des grottes qui sont les mêmes à l'époque que j'ai vues, les mêmes qu'à l'époque. Les endroits où il est passé, c'est des endroits, bien sûr, très à la mode. Il y a des cathédrales qui ont été construites. Ça vaut le coup, mais moi, j'ai vécu dans les grottes un peu. Avec l'abbé Simon, j'étais avec lui. Et on est allés tous les deux, je l'ai invité à venir avec moi, il était content parce que Sainte Thérèse lui avait dit qu'un jour il irait en Israël. Alors, il a dit une messe à Bethléem, c'était l'apothéose de sa vie. Enfin bon, voilà, on était tous les deux, j'ai fait acheter un grand sac de 50 kilos au moins de chapelet que j'ai fait bénir à Jérusalem et à Bethléem par l'abbé Simon, et je les ai mis au cou de mes amis en rentrant, quand je suis descendu de l'avion. C'est un bon souvenir. J'en rêvais d'aller faire le voyage du Christ. Pèlerinage, en Guadeloupe.
Avant que j'oublie, j'ai une question qui me revient comme ça, parce que j'imagine que les gens, les jeunes, les personnes qui cherchent, hein, des vrais chercheurs, là. On parle de recherche spirituelle, de recherche de bien-être, d'équilibre. Des gens qui parfois vivent des difficultés. Vous n'avez pas parfois cette impression qu'il vous regarde comme un dieu, comme un sauveur, comme quelqu'un qui va résoudre leurs problèmes avec une baguette magique.
Peut-être, mais moi je sais pas quoi dire à ça, moi. Je sais que le monde a besoin de poudre aux yeux, hein, ça c'est sûr. Et c'est peut-être aussi ce qui m'incitait à faire des choses spectaculaires. J'ai fait des Himalayas, vous l'avez vu, en VTT. Mais j'étais jeune, j'avais 71 ans. C'était vraiment un calvaire, j'ai souffert. Mais j'étais classé meilleur sportif du Bourbonnais. J'ai eu des médailles par tout le monde, quoi. Mais bon, c'est vrai que, quelque part, le monde a besoin d'exemplarité. Quelque part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut être exemplaire. Si on montre pas, si on donne pas l'exemple soi-même qu'on est. Moi, le matin en Italie, je suis le premier dans l'eau et le dernier sorti. Elle a dû vous le dire, Séverine. Et Patrick aussi. Je montre aux gens comment on doit y aller, comment on doit se comporter sur le terrain. Mais je dis pas aux gens, allez-y, allez-y, puis moi je reste habillé, quoi. Enfin, c'est normal. Exemplarité. Un peu comme Bonaparte au pont d'Arcole, sans parler de guerre, mais il a pris le drapeau, il est parti sous les balles de l'ennemi, parce que son armée hésitait. Ça, c'est d'exemplarité. Il faut être exemplaire, il n'y a rien à faire. Si on montre par l'exemple, et même à mon âge, je dois toujours être exemplaire. Vous voyez, avec ce qu'on peut, ce qui reste. Et exemplarité, expérience. Et l'expérience, voilà. Là, à ce moment-là, je réponds à votre question indirectement. Mais
oui.
À ce moment-là, les gens croient en vous. Parce que vous avez fait vos preuves et qu'ils voient les résultats. Ils sentent les résultats. Surtout que on sait maintenant par Internet tout ce que j'ai vécu avant. Et forcément, c'est ça l'exemplarité. C'est parce que quand on a failli mourir et qu'on devient, qu'on fait des choses avec un handicap, il n'y a pas que moi. Il y a des gens qui ont fait des choses. Moi, je me rappelle d'un homme que j'ai aidé, qui était venu. Il a été blessé en Indochine et les deux jambes coupées. Et il n'a pas voulu de la pension de l'État. Et il est venu travailler avec moi parce qu'il s'est entraîné pour faire Paris-Strasbourg à la marche. Tenez-vous bien. Il marchait sur les mains, sur les bras. Et il l'a fait. Il changeait de camp, de gants quand ils étaient usés. Il marchait sur les mains. Ben, c'est exemplaire. C'est quelque chose de formidable. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez des regrets, Maurice Daubard, enseignant de yoga depuis les années 50?
Daniel, un jour des regrets.
De ne pas avoir accompli quelque chose.
On n'est jamais parfait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des choses qu'on regrette. Par rapport à ses enfants, etc. Il y a toujours des choses après, mais après, quoi.
Mais bon. Et qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous tient encore à vous baigner comme ça, à tous les jours, dans cette eau glacée?
Pas tous les jours. Pendant les stages, oui. Mais là, en ce moment, j'ai arrêté. Mais enfin, là, j'ai nagé aussi deux, trois fois par semaine, quoi. Mais enfin, je veux pas dire que c'est tous les jours, depuis 1956. Non, ça, c'est deux, trois fois par semaine de moyenne, quoi, dans l'année. Parce qu'il y a des jours où j'ai pas le temps, parce que puis je suis content d'écouter mes excuses pour pas y aller. J'ai peur des samsaras, des démons déguisés. Chaque jour, j'ai peur d'écouter mes excuses pour pas aller à mes rendez-vous. Parce que je suis content d'en avoir des excuses. Les samsaras, les démons déguisés, vas-y donc pas aujourd'hui. Et reste donc couché. La valeur de l'homme réside dans la démarche. Voilà encore une parabole. C'est quand tu te lèves, tu t'arraches de ton lit bien chaud, douillet, qui fait froid dehors, qu'il faut que tu ailles casser la glace, tu traverses la cour, le slip sur la tête au cas où quelqu'un vienne, parce qu'il faut se rhabiller, ça. Voilà. Alors, on traverse la cour, on voudrait bien trouver une excuse pour pas y aller, mais tu marches, et tu y vas, et t'arrives sur place, tu casses la glace. C'est symbolique tous les jours.
Est-ce que c'est un rituel? Vous considérez-vous que c'est un rituel pour vous
et que
ça vous permet de revenir à vos origines?
On devient disciple de la discipline. Il faut devenir disciple. C'est le respect qu'on a et c'est ce qui apporte la valeur. La valeur de l'homme réside dans la démarche. Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es grand quand tu as l'humilité et que tu as peur? Que tu voudrais trouver des excuses et que tu les écoutes pas et que tu marches tranquillement. C'est un cérémonial. Tu recules pas. Un geste en efface un autre. Et tu y vas tranquillement. Et tu descends tranquillement. C'est ce que j'enseigne. Dans le froid. Et tu te déshabilles. Et puis après, tu descends dans le froid. Tu descends dans l'eau. Et puis tu nages tranquillement, calmement. comme si il faisait comme si les si c'était le mois d'août. Tant pis, elle est froide, tant pis. Et c'est ça qui met de la valeur. C'est ça qui donne de la valeur. Parce qu'on rabat son qu'est-ce qu'on on sent en dessous de tout. Parce qu'on a peur, parce qu'on a froid, parce que on voudrait bien pas être là. On préférerait être ailleurs, dans plus de confort. Et c'est là qu'est-ce que tu es grand quand tu doutes, quand tu es dans ces dépréciations de soi-même, mais que tu écoutes de devenir disciple de ta discipline. On n'a pas conscience. On a rabattu son caquet. On est dans l'humilité. Mais qu'est-ce qu'on est grand? La valeur de l'homme réside dans la démarche. C'est encore une parabole pour moi. Et que j'enseigne, bien sûr. Je leur explique tout ça. Et ils le ressentent bien, les gens, quand ils viennent travailler.
Et dites-moi, Maurice Daubard, après, en regardant un peu en arrière, est-ce que vous considérez que c'est par cette méthode du tomo que vous réussissez à continuer de faire l'ego, notre ego personnel, individuel,
Ben, bien
votre
sûr.
ami à votre service?
Bien sûr que tout doucement, il faut briser l'ego. Et puis, il y a la prière dans l'humilité. Une fois arrivé dans le froid, je récite tous les jours ma prière que je me suis créée en fonction de celle de Saint François d'Assise, qui m'a été un petit peu organisée avec un analyste qui est plus que psychanalyste. C'est après. Et c'est un homme qui était moine. Et on l'a arrangé. Alors, cette prière, elle est importante, je la récite. On s'adresse au Seigneur. Seigneur, dans le silence de l'aube, je te demande la paix, la force de regarder le monde avec des yeux remplis de ton exaltation, Seigneur. Seigneur, inspire-moi ce que je dois dire. Comment je dois le dire? Ce que je ne dois pas dire. Seigneur, inspire-moi ce que je dois faire. Comment je dois le faire? Ce que je ne dois pas faire, Seigneur. Ô Seigneur, revêt-moi ta présence. Fais-moi si joyeux et bienveillant que tout au long de ce jour, je révèle ta présence. Om mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, chanti, chanti, chanti. Voilà. Om mani padme hum, c'est le mantra tibétain.
Oui, naturellement, on a
Et chacun
reconnu.
l'arrange à sa manière. Mais je la récite le matin, sur la neige, tous les jours. Et quand moi j'y vais dans l'eau, eh ben je me la récite à voix haute ou discrètement, ou avec la personne à qui j'accompagne.
Ouais. On voit sur les films de vos étudiants qui justement, j'allais dire, se jettent à l'eau, sauf que Patrick, votre fils, m'a corrigé lorsque
Pas de jeter.
je lui ai parlé que non, il n'y a personne qui se jette à l'eau.
Bon, il faut pas, parce que c'est payé cher après.
Et voilà. Et par contre, ce que je voulais mentionner, Maurice Daubard, maître du yoga Tummo en Europe, en France, reconnu mondialement, est-ce que vous incitez aussi les personnes qui prennent votre formation à recréer l'événement comme le Shankalpa qui s'auto qui s'auto-promulgue. Je suis un peu à terme de manque, je suis un peu à manque de vocabulaire. Ce que j'aimerais obtenir, ce que j'aimerais savoir, si vous pouvez partager avec nous le processus que les étudiants, les chercheurs, les gens qui veulent vivre une expérience extraordinaire, comment vous faites pour qu'ils dépassent eux-mêmes leurs limites.
De toute façon, la plupart du temps, les gens sont réconciliés avec eux-mêmes. Comprenez? C'est tout simple. Parce que après, ils sont émus, bouleversés. J'ai réussi à faire ça. Donc, ils ont commencé à monter sur l'échelle de la confiance en soi. Parce que on est capable de faire des choses. On est réconcilié avec soi, je viens de le dire. Et on découvre des valeurs en même temps comme bénéfices. Alors on franchit tous les barreaux de l'échelle Moi, c'est arbitraire ce que je dis, mais après, vous avez l'échelle de la foi. Et comme dit Shivananda, la foi est aveugle ou ça n'est pas la foi. On ne peut pas expliquer. On peut que l'exprimer. Il n'y a pas d'explication que la foi. Il a raison, Shivananda, ancien médecin qui est devenu un des plus sages de l'Inde. Voilà. La foi, c'est ça se gagne, ça s'apprend. C'est pas inné. Et c'est à force de travailler pour oser prendre des chemins qu'on n'osera pas prendre, qu'on franchit des carrefours et que d'autres chemins se présentent. Et qu'à chaque fois, c'est une nouvelle naissance. De 10 ans en 10 ans, on peut dire. On est différemment, on évolue. Et sans regarder derrière, on ne regrette pas d'avoir changé totalement d'identité quelque part. Puisqu'on retrouve une autre identité. C'est à chaque fois une nouvelle naissance. Et c'est sur un chemin de perfection, car on est allé chercher ces différents chemins. Je m'explique un peu simplement, mais pour gagner du temps, quoi. Mmh. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je peux les expliquer. Et puis, on regarde pas en arrière, on voudrait plus revenir en arrière. D'abord, on se reconnaît plus. Parce qu'il n'y a pas à regretter. Et souvent, les gens ont peur de changer leurs habitudes. On a peur, c'est vrai, que même si on est mal dedans, même si on n'est pas bien, vous voyez, la plupart du temps, les gens ne sont pas forcément heureux, même s'ils font des compensations par ailleurs. Mais quelque part, ils restent dans ces habitudes, même s'il y a des contraintes, même s'ils sont mal. Et c'est un peu dommage, quoi. Il y a d'ailleurs, vous savez bien, un proverbe indien qui dit « Le père est à la fenêtre, il y a des enfants sont en train de se brûler les pieds dans la braise, ils disent « au secours, je me brûle !» Et le père dit « Venez, 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 vers moi, j'ai des jouets !» Alors les enfants courent vers... Et puis, bon, oui, ils s'amusent un peu avec les jouets, ils se lassent, et ils retournent dans le feu, se brûler les pieds. Et puis, il crie au secours. Alors le père sort encore une fois par la fenêtre, dit « Venez, venez !» Mais ils ont connaissé les jouets, ils ne reviennent pas. Alors j'ai des nouveaux jouets. Alors les gens vont quittent, les enfants quittent le feu pour retourner voir, il y a de nouveaux jouets. Puis après ça les amuse, puis voilà. Vous voyez, c'est une image. Mmh. Elle est profonde, cette histoire indienne. Mmh. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais...
Ben, en fait, la foi... en Bhakti Yoga, si j'ai bonne mémoire et vous me corrigerez, on fonctionne vraiment vers l'attrait. Ce qui est le plus agréable va toujours nous attirer davantage. Est-ce que c'est un peu vers là que cette parabole que vous exprimez signifie?
Ben, c'est difficile à expliquer parce que c'est une question en cours individuel, c'est pas pareil qu'un cours collectif. Puis ça dépend de quel niveau, de quelle souffrance. C'est pour ça souvent que les gens qui ont une maladie, ils n'ont pas le choix. Et c'est plus facile en fait, dans certains cas, de pouvoir les aider. Parce que quand on se réveille le matin, comme j'ai eu deux filles qui sont restées 15 ans dans ma vie qui ont été séropositives et qu'elles en sont sorties. Il y en a d'autres qui sont morts. Hein. J'ai pas sauvé la terre entière d'abord. C'est pas mon ambition. Eh bien, c'est sûr que le matin, on prend conscience de soi puis on se dit, mince, je dois mourir d'un cancer ou de tuberculose ou comme j'ai eu. Alors, naturellement, on prend des chemins et c'est ce qui s'est passé quand on trouve les guides, les gourous, quoi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais après, il y a une défaillance, parce que ces maladies contagieuses où il n'y a pas de miracle, tant qu'il n'y a pas de médicament sauveur, eh bien, c'est la peur de mourir. Alors, c'est sûr que il y a des périodes où tout d'un coup, tout dégringole et on ressent les symptômes de la maladie. Moi, je l'ai eu. Je sentais que c'était foutu, j'étais découragé. J'étais au bout du rouleau. Je sentais les symptômes de la tuberculose, etc. Tout. Je les connais par cœur, les symptômes. C'est incroyable comment le malade imaginaire revenait.
Et c'est à
puisque
partir de
j'ai
cette
écrit.
souffrance que vous avez réussi à devenir
Oui.
l'inverse.
Et puis après, tout d'un coup, on reprend la foi. On se reprogramme. On dit, allez, hop, et hop, on repart. C'est pas une angine, comprenez, ça dure des années. Mais quand ça tombe, et moi j'ai souvenir avec ces gens. C'est pour ça que j'ai l'expérience d'en être sorti. Et qu'on peut aider les autres quand on sort soi-même, guéri, amélioré, en tout cas, on guérit jamais de rien, disaient les scientifiques. Oui, ça c'est quelque chose, quoi.
Qu'est-ce que Maurice Daubard, dans vos voyages, vous vous êtes aussi prêté au jeu des scientifiques qui voulaient justement comprendre comment un être humain peut contrôler ses battements internes, sa pression artérielle, tout est chronométré. En Finlande, parlez-nous un peu là du processus. Qui a été utilisé et à quoi tout ça a servi parce que là on dépasse les limites, on dépasse les limites de l'entendement, c'est surnaturel et en même temps vous rendez ces processus un exemple de générosité et la transmission du message que si moi qui ai une constitution qui est faible, je peux faire ceci, imaginez-vous-même. En Finlande, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé là-bas et comment vous avez réussi à aider des personnes qui étaient sceptiques.
Bon, bah, d'abord parce que, oui, il y a eu un concours de circonstances, parce que c'est la Fédération finlandaise de yoga, la présidente ou la vice-présidente, je ne me rappelle plus bien, qui était venue dans mes stages et puis elle m'a fait venir. C'était un peu de rêve d'aller dans les pays scandinaves comme ça, ou là-bas, au bord de la Russie, où il fait froid. C'était pas en hiver, mais enfin, c'était quand même assez froid, hein. J'étais jusque dans le nord. Et évidemment que moi j'étais pas rassuré, j'étais inquiet même, parce que je me suis dit, comment ils me font venir comme le yogi du froid, moi faire qui va me permettre, quelle prétention, de parler du froid aux Esquimaux, aux gens qui en Finlande, j'avais le trac. Je me suis dit, ils doivent être très forts. Enfin, ils se déshabillent pas trop, hein, eux. Et je me suis entraîné comme un malade pour être à la hauteur. J'avais vraiment tête au fait parce que j'étais justement. Je suis resté pendant. Ils m'ont demandé aux summum de l'expérience parce qu'il y a les deux plus grands scientifiques qui ont exploré et qui ont été assez étonnés d'ailleurs. J'avais 77 ans. Donc, j'étais encore jeune, mais quand même, c'était quelque chose, quoi. Et je suis resté, ils m'ont demandé de me déshabiller, de rester une heure, branché d'appareil et tout, pendant une heure, à moins 32. C'est 33, je crois, moins 33. Alors, je suis resté pendant une heure. Et puis après, ils ont dit, c'est pas possible, avec tous les appareils. J'avais toujours la même température. Alors ils ont dit, vous ne pourriez pas rester 10 minutes de plus. Et moi, j'ai dit, mais non, je suis programmé pour une heure, je ne peux pas, vous ne vous rendez pas compte, ça présente. Et je ne voulais pas. Mais la veille, dans une soirée scientifique, il y avait plein de médecins, etc. À un moment donné, il y a un médecin qui avait ri, et puis je comprenais pas ce qu'il avait dit, mais ça me semblait suspect. J'ai demandé à l'interprète qu'est-ce qu'il a dit. Enfin, ça a été un petit dialogue pour obtenir. J'ai dit, bon, ben, je m'en vais. Je m'en fous, je m'en vais. Si vous voulez pas me dire ce qu'il a dit, je vous jure, je ne ferai pas d'histoire, mais je veux savoir ce qu'il a dit. Parce que j'ai senti le rire de l'assemblée. Alors, il avait dit, oui, ah, les Français, ils sont champions du monde de consommation de médicaments. Et là, j'ai eu honte de nous, j'ai eu honte de la France. C'est vrai qu'à l'époque, on est champion du monde de tristesse, il paraît maintenant, donc on a guère changé. Ça va avec le médicament. Alors, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Alors, le lendemain, quand j'étais dans le centre de recherche, et qu'ils m'ont demandé de rester 10 minutes de plus, après être resté une heure, parce que l'hypothermie n'était pas descendue. C'était déjà un premier miracle pour eux. J'avais toujours 37 de température. J'avais 37, oui, autour de 37. Alors, j'ai dit, bon, voulez-vous les vos 10 minutes, ma fierté de Français, j'ai fait ça pour ma famille, pour mon pays, pour le drapeau national, pour les Français, pour tout le monde. Allez, je me suis motivé, et je suis resté 10 minutes. Et j'avais 36,9 à la fin. Je ne me rappelle plus du mot qu'ils ont prononcé. Mais c'était un mot qui était assez époustouflant pour eux. Il n'y a pas eu d'hypothermie, même au bout de 10 minutes. Voilà. Alors, mais j'étais surentraîné parce que j'avais peur d'être ridicule.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais bon, je garde un souvenir inoubliable. Notamment, à un moment donné, j'allais avant les autres, je me déshabillais comme je fais souvent dans la clairière. Et devant moi, tout d'un coup, je voyais un animal sous une branche de sapin, vous l'avez lu peut-être. C'était un loup sauvage, je ne savais rien. J'ai cru que c'était un chien d'esquimau. Mais je voyais bien la lueur de ses yeux, qui était à, disons, 20, 30 mètres, pour ne pas exagérer. Mais peut-être moins, beaucoup moins. Et il n'avait jamais vu un yogi assis, tout nu, enfin en slip, assis sur un tas de neige qui le regardait. Et moi, je n'avais jamais vu un loup de ma vie. Et tout d'un coup, il s'est mis la queue, les jambes, le bassin entre les jambes, et il a fait une pirouette sur lui, il est parti en courant. Il a dû sentir mon odeur. Et ils ont dit, les Esquimaux, justement, ont dit, oui, c'était les traces d'un loup sauvage. Donc j'estime que c'est une performance que tout le monde n'a pas. D'être là-bas, au bord de la frontière russe, dans la forêt, assis sur un tas de neige, alors qu'il y a moins 30 dehors. Enfin, la nuit, il y avait moins 30, mais le matin, il faisait un peu moins froid, ce matin-là. En tout cas, devant un loup sauvage. C'est quand même une belle histoire à raconter aux enfants. C'est ce que je fais d'ailleurs.
Oui. Oui,
bon,
parce
voilà.
Que...
Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais...
Ben, en fait, c'est ce qu'on recherche toujours, Maurice Debar, ce qu'on enseigne toujours, et vous me corrigerez si dans votre cas, ce n'est pas aussi une parabole. Hein. On dit souvent qu'on enseigne ce que l'on veut apprendre.
Oui. Il y a une femme qui a écrit sur moi, et j'ai bien aimé. Elle a dit, Maurice Daubard vit ce qu'il enseigne, je ne sais plus de quel côté elle a commencé, vit ce qu'il enseigne, il enseigne ce qu'il vit. Moi, je dis toujours, bien sûr, c'est embêtant de parler de soi, mais quelque part, parler du jardin du voisin, c'est pas non plus... intéressant, on ne connaît pas. Parle de ton jardin, dit l'Écriture, ne parle pas du jardin du voisin parce que tu ne le connais pas.
Mm-hmm.
Donc parle de ton jardin, parle de ton expérience, de ce que tu as vécu. Alors si on parle de soi comme ça, bien sûr, il faut faire attention. C'est pas facile, moi je suis peut-être pas modeste non plus, hein. C'est sûr d'abord. Alors évidemment que ça gêne, ça peut déranger des gens. Mais comment faire? Vous voyez, c'est difficile
de parler
de l'Évangile sans l'avoir vécu, quoi.
Ben, c'est ça.
Pas que c'est mal, mais c'est quand même mieux de l'avoir vécu.
Oui, 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 oui. Certaines personnes, certaines personnes vont juger ou dire, bon, il se met en valeur lui-même, sauf que, bon, effectivement, de parler des autres... c'est pas forcément la meilleure méthode pour générer, pour transmettre, pour être l'amour inconditionnel que je ressens que vous partagez comme message. Il n'y a pas l'intellect, mais pas du tout. Maurice Daubard, nous allons écouter un témoignage qui m'a beaucoup touché, de Patrick, votre fils, lorsque Lorsque j'ai discuté avec Patrick, il ne voulait pas vraiment être interviewé parce qu'il disait justement, ça peut paraître biaisé, parce que je suis son fils, parce que c'est moi qui s'occupe de faire des trucs pour lui lorsque je suis en France. Il était à Rio, il demeure à Rio lorsque je l'ai interviewé et son témoignage m'a beaucoup touché parce qu'il Il s'est fait lui-même aussi, je sais ce que j'ai ressenti, ce n'est pas une copie conforme, loin de là. Il a développé son chemin spirituel, il va nous en parler et par la suite, donc je vais vous donner en même temps un petit temps de réflexion, même si je ressens et je me rends compte que vous êtes vraiment habile à répondre de façon intuitive, mais quand même, je vais préparer la question de la fin qui serait un souhait, qui serait, on parle de beaucoup de bouleversements. Dans notre société, l'humanité vit une grande transformation et je vais, après le témoignage de Patrick, vous laisser le soin de terminer sur un souhait, sur un sankalpa, sur des paroles qui pourraient et qui vont, j'en suis convaincu, aider et continuer d'aider les autres qui cherchent parfois des réponses à leurs questionnements. Alors, si ça vous va comme ça, nous allons procéder avec le témoignage de Patrick.
Oui, très bien.
Alors, on l'écoute,
J'ai bien dit l'essentiel maintenant. J'ai plus grand-chose
Oui,
à dire. Enfin bon,
oui,
je te vois,
effectivement, effectivement. Donc,
hein.
on écoute Patrick
Je
et
t'en
nous
prie.
revenons tout de suite après son témoignage.
Oui.
Alors, bonjour, bonsoir Patrick Daubard. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer pour cette émission du magazine Le Journal du Yoga. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord?
Oui, je vous entends très bien. Alors,
Parfait.
je vous dis bonjour, Daniel, donc, et bonjour à tous les auditeurs.
Et voilà, et voilà. Patrick, on s'est parlé un tout petit peu auparavant et je crois que vous avez compris que pour moi, c'était très important de recueillir votre témoignage puisque votre chemin spirituel aussi me fascine et je suis certain qu'il va intéresser. Les personnes qui écoutent cette émission diffusée sur Internet dans 55 pays. Patrick, oui, nous allons naturellement conclure avec un témoignage au sujet du chemin spirituel de votre père, Maurice Daubard. Mais d'abord, pour vous, votre chemin spirituel, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter?
D'abord, je voulais vous dire que je suis honoré et touché de votre intérêt, vraiment, et d'avoir cette opportunité de parler donc à beaucoup de gens dans le monde, hein, si j'ai bien compris. C'est une émission qui sera divulguée sur plusieurs pays.
Et voilà.
Donc voilà, je suis très touché, honoré. Alors, mon parcours, c'est un parcours assez avec beaucoup de variations, disons. Parce que moi, je m'adresse en fait personnellement dans mes activités, que ce soit professionnelles et aussi activités non professionnelles, activités éventuellement bénévoles, etc. Je m'adresse à l'être humain d'une manière générale parce que c'est mon parcours personnel. J'ai pour des raisons que je vais pas, on va pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais j'ai un parcours assez varié, c'est-à-dire que j'ai une formation dans le domaine de la santé. Une formation professionnelle, donc j'ai un diplôme. J'ai aussi des diplômes dans le monde du sport, donc aussi par rapport à la pédagogie. J'ai un diplôme universitaire en sciences humaines. J'ai aussi étudié la musique et donc principalement la composition qui a tout à fait à voir avec la vie en général. Et j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc j'enseigne le yoga, j'enseigne le français et je travaille aussi, disons, dans les ressources humaines, par rapport à la qualité de vie, la qualité de vie d'une manière générale.
Et
donc, oui, pardon.
Je m'excuse, je pensais que vous aviez terminé, continuez.
Oui, parce qu'en fait, la qualité de vie, c'est un peu le thème actuel, vous voyez. On en parle beaucoup de la qualité de vie, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est assez varié, ça peut aller l'alimentation, l'air qu'on respire, le sport qu'on pratique, si on pratique du yoga, quel genre de yoga, etc., etc. La relation qu'on a aux autres, la relation avec soi-même, etc. Donc c'est vraiment très 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 varié. Et justement, mon approche qui vient d'études de référence culturelle et professionnelle, etc., m'aide bien dans ce sens-là. Et donc, je suis, on va dire, très, très... je suis passionné, en fait, par cet aspect d'orienter, de pouvoir orienter les gens, éventuellement, pour leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Voilà. Mmh. C'est passionnant.
Mmh. Merci beaucoup. C'est touchant de savoir, justement, que vous avez, comme ça... parcouru le monde. Vous êtes situé présentement dans quelle région du monde?
J'habite au Brésil, à Rio.
D'accord.
J'ai pas vraiment parcouru le monde au départ. Mon idée était de parcourir le monde, mais je pensais pas qu'il était aussi grand. Donc, j'avais commencé par le continent américain.
Ah oui.
Et je suis resté dans le continent américain. J'ai jamais réussi à en faire tout le tour d'ailleurs. Je connais pas mal l'Amérique du Nord, donc l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et bien j'ai pas réussi à m'en sortir, on va dire, de l'Amérique. Donc parce que c'est déjà une immensité et c'est déjà tout un monde bien différent de l'Europe. Donc je n'ai pas parcouru le monde.
Et vous avez aussi écrit un ouvrage dont nous allons discuter un peu plus tard. Patrick, moi, je perçois votre chemin, votre description de votre route dans la vie comme étant vraiment multidisciplinaire. Hein. Vous avez été chercher différentes compétences, vous avez été chercher différents savoirs et vous intégrez le tout dans les cours que vous offrez à Rio?
Exactement, exactement. Les gens viennent parfois me sollicitent pour résoudre des problèmes de santé ou alors pour avoir des orientations par rapport à leur vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau psychologique et même parfois, pourquoi pas, au niveau artistique. Parce que, alors, je suis professeur de yoga, donc les techniques de yoga, elles sont très utiles pour justement permettre aux gens de mettre tout ça en pratique. Vous voyez ? Mais, par exemple, dans le sport ou alors dans l'art ou dans les arts de manière générale, bon, moi c'était surtout la musique, mais aussi la littérature, parce que vous avez parlé d'un bouquin, mais en fait j'ai écrit deux bouquins. J'ai écrit un bouquin donc qu'on appelle en France de développement personnel, mais j'ai aussi écrit un roman. Aussi à travers mes voyages et donc toute mon expérience en psychiatrie, puisque ma formation dans la santé, dans le domaine de la santé, c'était en psychiatrie. Tout ça, ce sont des apports qui viennent se compléter et qui permet une certaine compréhension, je dirais pas complète, parce que je pense que c'est un petit peu prétentieux et je sais même pas si ça existe. L'homme, l'être humain est tellement sophistiqué et tellement, on va dire que c'est un monde infini qu'on a devant nous, c'est un peu comme l'univers. Donc, s'il existe une formation complète par rapport à l'être humain, mais disons, avec une certaine variation, et qui permet justement une approche de diverses manières, et ça, je trouve que c'est très, très intéressant.
Mmh. Vous êtes privilégié que Dobar, enseignant de yoga, parce que, de mon sens, la définition du yoga, c'est un peu aussi d'éteindre l'ego, l'individualité, pour laisser place au plus grand que soi. Et vous avez naturellement eu un maître spirituel, un des premiers, qui vous a accompagné dans votre chemin de la découverte du yoga, qui est Maurice Dobar, naturellement. Comment vous avez vécu cet apprentissage?
Alors déjà, vous avez dit beaucoup de choses dans votre question. vous avez soulevé un point important sans forcément utiliser le terme précis, qui est l'humilité. Et l'humilité, ça, c'est très, très, très important. C'est un peu, je dirais, le point de départ de tout, pas seulement de la spiritualité. Et par exemple, mon prof de musique, un jour, je me souviens, un élève lui avait demandé, j'étais présent ce jour-là, et il avait demandé à mon prof de musique, la question c'est comment je peux un jour jouer comme un grand musicien? Et mon prof lui avait répondu, l'humilité. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très important, l'humilité. Alors, on va pas faire un cours sur l'humilité parce que c'est assez complexe de comprendre cette histoire d'humilité, mais je dirais que vous en avez parlé dans votre question d'une autre manière, mais c'est un peu le point de départ de tout. Voilà. Alors, maintenant, dans la deuxième partie de votre question, vous me parlez de Maurice Daubard, qui est mon père. Et effectivement, depuis tout jeune, j'étais en contact avec son enseignement. Et son enseignement, parce que plus sur le plan pratique, parce que d'abord, Maurice Daubard, ça a toujours été quelqu'un qui est dans l'expérience et dans la vie et le terrain. Donc moi j'étais souvent, je l'accompagnais dans toutes ses activités, aussi bien de yoga en elle-même et aussi éducative, puisqu'il a été un grand éducateur avant toute chose, et recueillait les gens qui étaient vraiment dans le besoin. Donc j'étais entouré dans mon adolescence par exemple, et il les recueillait vraiment, c'est-à-dire qu'il les mettait chez lui, voilà. Donc je partageais le même toit que des gens qui avaient toutes sortes de pathologies et toutes sortes de besoins. On était tous à la même table. C'était vraiment quelque chose d'incroyable et de très très riche de partager ça. Et je pense que ça a été un des tout premiers enseignements, c'est de partager mon quotidien de tous ces gens. Donc il y avait des pathologies variées. Juste pour donner un exemple, il y avait des schizophrènes, des débiles mentaux, des aveugles, des handicapés moteurs, etc., etc. Tout le monde à la même table et tout le monde vivait là parce qu'il les recueillait. Voilà. Et ça, c'est un point de départ qui était très important pour moi, je pense. En plus de tout le côté sportif, on a toujours été des grands sportifs dans la famille. Donc, on a toujours fait beaucoup, beaucoup de sport.
Très intéressant. Patrick Daubard, juste pour informer les gens qui écoutent cette interview, qui est diffusée sur YouTube, donc nous avons transcodé cette émission de radio, cette conversation, pour qu'elle soit visible sur le canal YouTube du magazine Le Journal du Yoga, qui d'ailleurs a dédié 4 pages complètes dans le numéro du mois de mai 2016. Patrick Daubard, vous êtes l'attaché de presse aussi. Vous êtes encore au service de cet homme qui a fait tant d'exploits. J'ai eu le privilège de lire ses ouvrages. Les histoires qu'il raconte sont vraiment, vraiment touchantes. On voit qu'il y a beaucoup d'authenticité dans tout ce chemin, et ça transpire aussi dans votre enseignement. Vous, de votre côté, votre définition à vous de ce que représente l'éveil spirituel?
Alors, de nouveau, il y a beaucoup de questions dans votre question.
Alors, en fait, je prends aussi des choses pour acquises. Hein. Peut-être que vous pourrez me corriger, oui. Naturellement.
Mais non, mais il n'y a pas de souci. Alors, la première partie, donc effectivement, je m'occupe de tout ce qui est communication. Et, parce que mon père a 86 ans, donc il est toujours en activité. Hein, il organise des stages, etc. Donc, sur les stages, en hiver, dans les Alpes, où on pratique le yoga et le tummo. Donc, il vous en parlera mieux que moi, du tout mot. Pour les gens qui écoutent, ils vont découvrir ça s'ils ont la patience et l'intérêt de continuer d'écouter l'émission. Donc, dans les Alpes, en haute montagne, je suis son assistant. Donc, on reste 5 semaines en montagne. Pendant 4 semaines, on reçoit des stagiaires. Donc là, je suis son assistant au niveau organisation, au niveau logistique, au niveau pédagogique. Je suis son assistant. Et en dehors de... Là, c'est du présentiel, vraiment. Je suis sur place. Sinon, le reste de l'année, je m'occupe un peu de la com, parce que comme il a 86 ans, c'est là où je voulais en venir, eh bien, il n'y connaît absolument rien en Internet, etc. Et ça, vraiment, ça ne l'intéresse pas du tout. Il a un ordinateur, parce qu'il a estimé qu'il fallait qu'il ait un ordinateur, mais il ne sait même pas le brancher. Donc, il y a des gens parfois qui font fonctionner son ordinateur. Mais moi, je m'occupe donc de ses emails, de son site internet, etc. Et les gens parfois sont un peu surpris parce que ils écrivent et c'est pas lui qui répond, c'est moi. Par contre, si on lui téléphone, c'est-à-dire que je dis d'ailleurs, il y a un message que j'envoie à tout le monde, si on utilise le bon vieux courrier et le bon vieux téléphone, là, les gens sont surpris dans l'autre sens parce que c'est lui qui répond au téléphone. Voilà. Mais email, c'est pas lui, c'est moi. Alors, comme je suis en plus au Brésil, les gens, ils m'envoient des messages en me disant, est-ce que vous pouvez donner ça ou retransmettre ça à mon père? Et des fois, je lui réponds, c'est peut-être plus facile que vous le fassiez vous-même parce que moi, j'habite loin. Donc voilà, je m'occupe un peu de tout ça.
Ouais.
Ensuite, par rapport à ce travail, donc de, je vous disais sur l'humain, etc. Là, l'éveil spirituel, c'est une question très très vaste. Il y a beaucoup de composants. C'est vraiment, j'allais presque dire un infini de possibilités de par rapport à l'éveil spirituel. Mais dans le yoga, par exemple, on a certains courants de travail, comme par exemple on a le karma yoga, et ça, donc Maurice Daubard, c'est un grand spécialiste de karma yoga, dans le sens où il a vraiment pris la Bible au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il a vraiment s'est mis à disposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aider les gens qui sont dans le besoin, au point de les recevoir chez lui. Donc là, il y a au niveau de la spiritualité, vous voyez, s'occuper des autres, c'est déjà un chemin extraordinaire, s'occuper des autres. Être à disposition. Et moi, je dis souvent dans mes cours, alors d'abord, le yoga, c'est une connaissance de soi, déjà pour commencer, mais c'est pas la connaissance de soi, c'est certainement pas un voyage narcissique. Absolument pas. Se connaître soi-même, c'est au contraire, ça débouche sur une ouverture aux autres. Et on doit se rendre disponible. Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher les gens à tout prix. Qu'est-ce que je peux aider? Aller dans les rues. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être disponible. Se rendre disponible aux autres. Et éventuellement, si on peut, les aider. Si on peut pas, eh bien, on les aide pas parce qu'on peut pas. Mais si on peut, eh bien, les aider. Et ça, c'est déjà, ça fait partie du chemin, on va dire, de l'éveil spirituel parce que la générosité, la simplicité, se mettre au service de l'autre, etc. Ça, c'est présent dans toutes les religions et toutes les philosophies concernées par la spiritualité. Il y a l'aide et se mettre au service des autres. Je pense que c'est présent dans tout ce qui est concerné par la spiritualité.
Et donc, vous êtes la personne qui fait rayonner la mission même de Patrick Daubard, qui est de transmettre un message. Lorsqu'il faisait comme ça partie d'expériences scientifiques, on a fait des études sur lui pour mettre en contexte les personnes qui n'auraient peut-être pas lu en profondeur ou appris par l'entremise du magazine Le Journal du Yoga les exploits qu'il a fait, c'est-à-dire de se retrouver dans des bassins de glace ou encore à moins 30 enterré dans la neige presque jusqu'au cou finalement pendant plus ou presque une heure de temps immobile sans tomber en hypothermie alors qu'il est branché avec des électrodes et donc on vérifiait ses battements internes, sa pression artérielle et tout ça. Vous qui étiez témoin de ce, bon, j'utilise le mot très librement là qui me vient en tête, ce cirque, hein, que des fois les gens, et d'ailleurs il en parle régulièrement dans son livre, où les gens le trouvaient un peu hors norme, c'est le moins que je peux dire. Comment vous viviez tout cette expérience d'un être extraordinaire, parce que Maurice Daubard, c'est une personne qui est extraordinaire, il n'est pas ordinaire. Vous, comment vous viviez cela, s'il vous plaît?
Bon, alors, déjà pour moi, pour commencer, ça a commencé depuis l'enfance, cette histoire.
C'est ça, oui.
C'est toujours été présent, donc pour moi, c'était la normalité, vous voyez?
C'était la normalité, je m'excuse de vous interrompre, sauf que je me mets dans vos souliers, vous arrivez à l'école, les amis devaient aussi un peu rigoler. Comment ça se passait?
Ah ben ça, alors là, dans une petite ville comme on habitait, c'est sûr que les gens rigolaient. Surtout que c'était des... Mon père, donc, qui est Maurice Daubat, parce que vous avez parlé de lui en tant que Patrick, Patrick c'est moi.
Je m'excuse, oui.
Patrick, c'est juste pour les auditeurs, pour corriger. Donc, Maurice Daubat, il a été le pionnier de, je ne sais pas combien de... C'est incroyable. Par exemple, ce qui paraît complètement ordinaire à l'heure actuelle, ce qu'on appelle le jogging. Alors, fut une époque, on l'appelait le footing, maintenant c'est devenu le jogging. Mais à l'époque, on l'appelait le footing avant qu'on l'appelle le footing, c'est-à-dire courir dans les rues et courir dans la forêt, ça n'existait pas. Personne ne faisait ça dans les années 70. Et lui, il faisait ça. Donc, on était la risée de la ville parce que on passait en courant dans la ville en short. Les gens n'avaient jamais vu ça à l'époque, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement normal. Tout le monde fait ça. Donc, il a anticipé plein de choses. Comme le froid, c'est la même chose. Maintenant, le froid, c'est en train de devenir une réalité. C'est-à-dire la reconstruction par le froid, le rajeunissement par le froid, le renfort des défenses naturelles par le froid, ça devient une réalité. Maintenant, c'est présent dans la science. La cryothérapie, l'équipe de France de rugby utilise ça, l'équipe de Brésil du football, même si ça ne leur a pas réussi à la dernière Coupe du Monde, mais ils utilisent ça. C'est pour la récupération. Les grands sportifs de haut niveau utilisent le froid pour la récupération. Donc, juste après les matchs, ils se mettent donc dans le froid. De nouveau, mon père était pionnier. C'est lui qui a vraiment lancé ça en Europe. Alors, il n'a pas inventé ça, puisque nous disons toujours, et nous insistons là-dessus, mot, donc, d'inspiration, c'est un yoga d'inspiration tibétaine. D'inspiration tibétaine, parce que les Tibétains ont toujours fait ça. Alexandra Davinel, dans ses écrits, si vous commencez de lire son œuvre, bien vous verrez, elle parle de tout mot, etc. Donc, pour en revenir sur le parcours de Maurice Daubat, parce que tout est un peu lié dans votre question, c'est-à-dire que moi j'ai toujours l'habitude de dire que dans le yoga, il y a deux courants où il est vraiment extraordinairement présent, je dirais. C'est donc le karma yoga, parce qu'il a vraiment aidé les autres personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre aider les gens comme ça, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Dans le karma yoga, sans s'attendre à quoi que ce soit en retour.
Voilà, exactement. La générosité désintéressée. Et c'est là bien la différence avec la générosité qui peut être éventuellement une forme d'échange et de business. Donc à ce moment-là, on n'est pas dans le karma yoga. Alors, mettre des gens chez soi pendant des années, parce que des fois, moi, je vois des films américains, ça me fait rigoler. Les films américains, il y a quelqu'un qui récupère de classe moyenne, donc on va dire qu'il récupère un vagabond pour une raison ou pour une autre, il le met chez lui, ça dure 3 jours, et puis après, de toute façon, une fois qu'il a coupé les cheveux et qu'il a fait prendre une douche, il s'avère que c'est un beau garçon, etc., qui est plein de qualités. Voilà, c'est ça. Alors que là, ça durait des années. Ça durait des années. Alors tous ces garçons étaient pleins de qualités, évidemment, mais ils avaient des grosses pathologies.
Ouais.
Souvent. D'accord. Ouais. Donc là, c'est le karma yoga. Et le tapas. Alors le tapas, c'est aussi donc Maurice Daubat, c'est un grand spécialiste dans le tapas. Et comment il en est arrivé dans le tapas? Un peu par la force des choses. Tapas, pour ceux qui ne connaissent pas.
L'austérité.
Plus que ça, c'est déjà très réduisant comme définition. C'est l'éveil du feu intérieur, vous voyez. D'accord. À travers des exercices qui demandent, qui a une certaine difficulté quand même. Il faut une certaine difficulté pour l'éveil. Donc le tumo, c'est ça. C'est le tumo, ça veut dire tapas. Tumo, c'est en brésilien. Non, pardon, en brésilien. en tibétain.
D'accord. Voilà.
Donc c'est tapas, c'est-à-dire. Moi, si on devait résumer le résumé, c'est l'éveil du feu intérieur.
D'accord. Voilà.
Alors, lui, il a été très, très, très malade quand il était jeune. Il s'est retrouvé donc avec une tuberculose et d'autres maladies, des calcifications, etc., etc. Il était condamné par la médecine ou à mourir ou au minimum avoir des séquelles et rester handicapé.
Et on voulait même l'opérer. Il a refusé d'être opéré.
Exactement.
Et voilà, ouais.
Et alors, en fait, il a été, c'est le yoga qui l'a sauvé dans une première étape, le yoga mental, parce qu'il y avait un missionnaire qui revenait d'Inde, un missionnaire catholique, mais qui revenait d'Inde, et qui a commencé, dans le sanatorium où il était donc hospitalisé, et qui a commencé à enseigner le yoga aux patients qui étaient là. Et lui, il a pris ça au sérieux, et il s'est mis à bosser le yoga mental d'abord, couché, donc allongé toute la journée, et il bossait mentalement. Alors il a eu une première récupération grâce à ces techniques. Ensuite, il a enchaîné quand il est sorti du sanatorium, parce qu'il s'est déclaré lui-même guéri, alors que c'était loin d'être le cas. Donc il a enchaîné sur le tumu, parce qu'il avait entendu parler, un copain lui avait donné un bouquin où il y avait des techniques de par rapport au froid, etc. Et qui, donc, il avait eu un exemple d'un tuberculeux qui s'était soigné comme ça. Donc il a commencé à rentrer dans les rivières, en plein hiver, dans l'Allier, donc, alors qu'il était pas vraiment en convalescence, il était encore tuberculeux. Donc, alors après, c'est ça sa démarche. Pour se guérir, il a commencé le froid. Et il a continué. Il s'est jamais arrêté. Il fallait qu'il se reconstruise. Se reconstruire. Eh bien, il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Et son grand message, et c'est ça qui est important à dire, parce que des fois, les gens confondent un petit peu certaines choses, le message qu'il a à faire passer, Maurice Daubard, c'est un message de générosité. Parce qu'il n'arrête pas de dire, et il montre, et quand on en parlera des scientifiques, les scientifiques qui s'intéressent à lui pensent qu'ils vont avoir un surhumain qui va arriver, justement, un superman, etc. Et les scientifiques sont presque déçus quand ils voient un ancien tuberculeux qui débarque et qu'il soit capable de faire tout ce qu'il a fait. Et donc, il le dit, son message, c'est très clair. Si moi, qui étais condamné par la médecine, débilité par les maladies, etc., etc., si moi, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, alors vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est son message, et grâce à des techniques de yoga très simples, à la portée de tout le monde. C'est pas des techniques très... que seulement une élite... du yoga pour y accéder après 40 ans de pratique. Non, des techniques très simples de relaxation, de respiration, d'organiser un petit peu son mental, de pensée positive, etc., de projection et de fameux sankalpa, voilà, dont il parle beaucoup. Avec des techniques très très simples comme ça, eh bien, on peut améliorer son quotidien. On n'est pas obligé d'aller faire des monter l'Everest. Ceux qui veulent monter l'Everest, eh bien, ça les aidera, mais c'est même dans le quotidien, des choses très simples, c'est redevenir, enfin moi j'ai une formule pour essayer de se rapprocher, en fait, le plus possible de nos véritables capacités. Parce que la plupart des êtres humains, ils sont en dessous de leurs véritables capacités. Pour des raisons X, Y, qui ne nous intéressent pas vraiment d'ailleurs, eh bien, on est souvent en dessous de nos véritables capacités. Donc, essayer de remonter le niveau pour accéder à ce vraiment de quoi on est capable. Et éventuellement, pourquoi pas, parce que la limite, elle n'est pas tellement définie, cette limite, on ne sait pas trop. Donc éventuellement même, flirter avec le dépassement. Et pourquoi pas, et bien c'est un peu ce qui s'est passé, parce que la limite, il n'y a pas une ligne rouge. Comprenez, Daniel? Il n'y a pas, ça y est, maintenant vous êtes arrivé à vos véritables capacités. C'est-à-dire toutes les choses que vous ne pouviez pas faire à cause de la maladie, à cause des problèmes psychologiques, à cause des frustrations, à cause de tout ce qu'on a dans la vie qui nous empêche de nous exprimer pleinement. Eh bien, il n'y a pas un signal, il n'y a pas une sonnette qui vous dit « Ah, ça y est, stop !» Vous pouvez vous arrêter, vous êtes arrivé à vos capacités réelles. Voilà, ce à quoi vous étiez destiné, on va dire comme ça, juste pour formuler une phrase. Non, c'est pas défini, on ne sait pas. Eh bien, d'un seul coup, on est dans le dépassement. Et on ne s'en est pas rendu compte. Vous voyez ?
Ouais.
Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Maurice Daubard. Il s'en est pas vraiment rendu compte. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais vous faites des choses extraordinaires. Ah bon? Voilà. Eh bien, il a jamais arrêté parce que il en avait besoin, il avait peur d'être attrapé par la maladie, etc., etc. Et comme il le dit lui-même, il vous en parlera bien mieux que moi. Pourquoi vous continuez, la fameuse question? Je vous laisse, d'ailleurs, je laisse les auditeurs, arriver à ce moment de l'interview, lui-même dira pourquoi il a continué. c'est très intéressant.
Oui, et ayant eu une conversation avec lui, j'ai ressenti tout de suite cette générosité, cette simplicité aussi. On aurait dit que le temps s'arrêtait lorsque simplement une conversation téléphonique m'a procuré un état de calme, un état de bien-être. D'ailleurs, je peux vous confirmer aussi que cette générosité, je la ressens auprès de vous aussi, et cette ouverture, cette simplicité, Patrick Dobard. J'aimerais qu'on termine cette entrevue en parlant un peu de l'aspect, de l'importance du Sankalpa qui est une continuité avec ce que nous aurons comme entretien avec Maurice Dobard, et aussi je m'en voudrais de ne pas vous demander qu'on discute un peu de votre ouvrage. D'ailleurs, si vous me le permettez, avant qu'on parle du Sankalpa, je vais inviter les gens à chercher un peu sur Internet Patrick Dobard. Vous avez publié un ouvrage qui est disponible sur Internet, sur lulu.com, qui s'intitule « Vers une transformation souhaitable de nous-mêmes ». Un ouvrage qui parle de la vraie nature, de qui nous sommes véritablement. Patrick Dobard, le Sankalpa, dans votre chemin de vie, dans votre observation des gens que vous aidez à titre de professeur de yoga au Brésil et ailleurs d'ailleurs sur le terrain avec votre père Maurice, comment ça se vit? Quelle en est l'importance pour vous par rapport au quotidien?
Ah, le Sankalpa, c'est comme dirait Maurice Dobard, pour lui, c'est l'âme du yoga, ou peut-être une des âmes du yoga, parce que pourquoi pas avoir plusieurs âmes, en tout cas, cette science qu'on appelle le yoga. Alors, le Sankalpa, si on veut le résumer à un mot, c'est très difficile de traduire le sanskrit. Mais si on veut résumer au résumé, en s'inspirant de Micheline Flagg, donc, qui a traduit Satyananda, où elle nous parle de Yoga Nidra, et le Sankalpa est très important, cette notion de Sankalpa dans le Yoga Nidra. Donc, en le résumant à un seul mot, ça serait résolution. Alors, moi, comment je l'explique, le Sankalpa? Le Sankalpa, si vous voulez, c'est... dans mon bouquin, j'aime bien cette expression. C'est, alors, la connaissance de soi, à quoi elle sert? La connaissance de soi. Alors, la connaissance de soi, c'est l'éveil de la conscience. C'est-à-dire, la conscience, l'espace conscience. C'est très, très, très important. Alors, dans la psychanalyse, tout le monde comprend ça. Hein? Aller pêcher, aller essayer de récupérer des éléments de l'inconscient pour les rendre conscients. Et à partir du moment où on les a rendus conscients, eh bien, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir les faire évoluer. Voilà. Donc, mais l'espace conscience, quand les gens parlent de la conscience, ils parlent souvent de la conscience intellectuelle, mentale. Ils oublient que la conscience, elle a plusieurs visages. Il y a la conscience physiologique, la conscience émotionnelle, la conscience donc intellectuelle, mentale évidemment, et la conscience énergétique. Et en yoga, eh bien, on essaye d'ouvrir, enfin moi je travaille beaucoup là-dessus, on essaye d'ouvrir, agrandir l'espace conscience dans toutes ces dimensions que je viens de nommer. Voilà. Et à partir de cet espace conscience, donc ça c'est la connaissance de soi. À partir de là, eh bien, j'ai une formule que j'ai adoptée et qui me plaît beaucoup, c'est être un peu moins otage d'eux. Il ne s'agit pas d'avoir la prétention de tout prendre dans ses bras et tout comprendre, etc. Non, ça va être un peu difficile. Que ça, au niveau mental, si les gens ont étudié Freud, etc., l'inconscient, c'est quelque chose de bien plus grand au niveau espace physique que la conscience. Mais être un peu moins otage de son corps, c'est-à-dire, ah mais qu'est-ce que ça veut dire ça, on est otage de son corps? Eh oui, on prend pas la décision de comment on se tient dans la rue, on prend pas la décision de comment on se tient devant son ordinateur, on prend pas la décision dans une posture de yoga exactement comme on doit la pratiquer ou dans le sport voyez? Donc, on est otage de son corps. C'est lui qui décide. Vous voyez? Comment on se tient devant le conducteur? On se tient tout dessus, tout tordu. Donc, être un peu moins otage de son corps, être un peu moins otage au niveau émotionnel, eh ben, tout le monde comprend ça. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Être un peu moins otage au niveau mental. Là, c'est pareil. Les gens comprennent facilement. Alors, on va essayer de travailler cet espace conscience pour être un petit peu moins otage. Et en même temps, du coup, je parle de mon bouquin, là, parce que c'est vraiment le contenu de mon bouquin.
Ouais.
Alors, le Sankalpa, à partir de cette conscience, j'ai ouvert l'espace conscience. Je suis plus conscient que qu'hier, et moins que demain. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Eh bien, je vais prendre des décisions. Voilà. Je vais orienter ma vie. Et non plus de nouveau être l'otage. C'est-à-dire, j'ai une image, encore une fois, c'est souvent, on est des navires qui sont à la dérive sur l'océan. Oui. Alors, eh bien, on va essayer de prendre les choses en main. Le commandant du navire, il arrête de dormir dans la cabine, vous voyez, il va rebrancher la radio avec sa tripulation, il va aller d'ailleurs la connaître, il va se présenter, etc. On fait des exercices pour reprendre les choses en main. C'est-à-dire qu'on va décider dans quelle direction on va. On va mettre le cap sur. Et ça, c'est le Sankalpa. Je vais mettre le cap sur. Alors, je vais mettre le cap sur ce que je décide, moi, c'est-à-dire la personne qui pratique. C'est pas le curé du coin, ni sa mère, ni le psychanalyste, ni le professeur de yoga. C'est pas eux qui vont prendre la décision pour moi. C'est moi-même qui va prendre la décision. Quels sont mes objectifs dans la vie? Dans quelle direction je veux aller? Et ça, c'est le Sankalpa. C'est-à-dire décider de l'endroit, de l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, ça peut être des choses très simples, très très simples. Ça peut aller de manger moins de chocolat jusqu'à, pourquoi pas, atteindre l'état d'élimination de samadhi. Moi, je leur dis toujours à mes élèves, ça les fait marrer. Et si on se faisait un petit sankalpa sympa, allez, on va atteindre l'état d'élimination. Tout le monde est mort de rire, évidemment. Mais pourquoi pas, au moins, aller dans la direction d'eux. Parce que comme on sait tous en philosophie, tout le monde sait, tout le monde a entendu cette phrase, c'est le cheminement qui compte. Uh-huh. Eh bien, le mettre ça en pratique. Alors le Sankalpa, c'est ça. Vous voyez? C'est décider de mettre, on met le cap et on va dans la direction. Et on est conscient, attention, on est conscient qu'il va y avoir des obstacles. On est conscient qu'il y aura des difficultés. On est conscient qu'il y aura des orages, des tempêtes, etc. Et quand il y a des grosses tempêtes, eh bien, on reste tranquille. On ne fait pas le malin. J'ai fait toujours cette comparaison d'un petit mammifère. Vous imaginez un petit mammifère de 5 cm de long ou de 10 cm de long qui habite dans l'Amazonie. Vous pouvez imaginer, on se plaint, nous. Vous savez, imaginez la réalité que c'est, ça. Eh bien, il y a une tempête dans l'Amazonie, il ne va pas sortir. Et là, ouais, tu ne me fais pas peur, tempête. Non, il se cache dans son petit trou et il attend que ça se passe. Vous voyez, quand il y a une tempête, on attend que ça se passe. Ça finit par passer. Et on reprend son cheminement. Et alors, le Sankalpa, donc, qui correspond à toute la mise en place qu'on va, de choses qu'on va décider pour aller dans une direction qu'on a choisie, et non plus être à la dérive, vous voyez? Eh bien, attention! Parce que le Sankalpa, il faut qu'il prenne son pli, son appui, on va dire, sur le Santosha. Et ça, c'est très important. Dans le cas, le Santosha, c'est le contentement. Mais le yoga, dans le yoga, par exemple, le santosha, c'est le présent. Parce qu'attention, on peut se perdre dans cette histoire de tout le temps penser au futur, tout le temps penser là où on va. Et le présent. Donc, sur le santosha, le sankalpa prend tout son sens. Le santosha, c'est être dans le présent. Et ça, tous les grands penseurs nous rappellent à l'ordre, depuis Bouddha jusqu'à Eckhart Tolle, l'anglais. En passant par tous les grands penseurs, ils nous ramènent au présent. Il faut vivre le présent. Et ça, c'est certainement un des secrets du bonheur, c'est d'être dans le présent. Alors, bien sûr, il faut s'inspirer du passé pour pas répéter les mêmes conneries, on va dire comme ça, hein. Et aussi s'inspirer des bonnes choses, ça, c'est certain. Et alors, on a Sankalpa à disposition pour décider, c'est-à-dire que dans quelle direction je vais. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'être dans le présent. Et là, Santosha, c'est le contentement. C'est-à-dire, on est content, on est dans le contentement, mais ce n'est pas un imbécile heureux. Vous voyez, on est content aujourd'hui de ce qu'on a. Et on vit chaque moment. Et là, je cite Nadia Boulanger dans mon bouquin, qui était une grande prof de musique, et qui nous dit « Tous nos jours sont bénis. On s'en profitait ou on ne sait pas, mais ils sont bénis. » Vous voyez, ça c'est Santosha. Ça c'est être dans le présent. Alors, sur ce présent, on est satisfait, on en profite, on perd aucun papillon que la vie veut bien nous présenter. On arrête tout. Voilà, regarde le papillon. Oh, qu'il est beau. Vous voyez, il n'y a plus que le papillon qui existe. La beauté du papillon, la poésie, encore un élément qui est important. Vous voyez ? Alors, mais, on sait où on va. Voilà. En tout cas, on essaye d'organiser pour aller dans la direction que nous avons choisie.
C'est tellement beau vous entendre parler, Patrick Debar. Le temps file. Moi, j'en ai des frissons partout. C'est très, très, c'est très, très inspirant ce que vous racontez. On sent que vous vivez. Je ressens ce que vous vivez et je vous assure que si j'étais plus près de vous, je vous serrais dans les bras pour vous remercier parce que vous faites partie de cet instant présent qui fait que tout est, tout sera, tout était et tout a été dit. Et par contre, tout est à découvrir. Patrick Debar...
Pardon, vous vous coupez.
Oui.
Par rapport, vous me serrez dans les bras, pourquoi pas, vous me serrez dans les bras virtuellement.
Et parce voilà. Que
le Dalai Lama, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, il a dit... Quand vous êtes au téléphone, souriez. La personne ne le verra pas. La personne ne le verra pas, mais elle va le sentir.
Et voilà. Et voilà.
Donc, on peut se prendre dans les bras aussi, pourquoi pas, par Internet.
Et voilà. Et voilà. Ben, merci beaucoup. C'est accepté, c'est mutuel. Patrick, je m'en voudrais d'oublier de mentionner qu'il y a un site web que vous maintenez pour Maurice Debar. Donc, vous me permettez de le mentionner. Et si je fais erreur, vous me corrigerez. Donc, c'est mauricedebar.com et je vais l'épeler pour les personnes qui écoutent. Donc, j'aurais dû mentionner cela au début. En fait, on est au début puisque nous allons parler dans quelques instants avec Maurice Debar lui-même. Donc, c'est M-A-U-R-I-C-E D, D comme Daniel, A-U-B comme bonjour, A-R-D.com.
Voilà, exactement. Et D comme Daniel à la fin aussi. Donc,
ouais.
Exactement, point com.
Oui.
www. Alors, Maurice Debar en un seul mot.
Et voilà. Et en 2016, à l'âge de 86 ans, il continue de donner des stages, des ateliers. On voit sur le site toutes les informations, comment s'y prendre pour s'y rendre avec une carte géographique et aussi le programme. Et il y a plein de YouTube qu'on peut voir où les gens comme ça... On imagine, on ressent, on comprend que les stagiaires, les personnes qui expérimentent le thumo, qui se jettent à l'eau comme ça, froide, et ou bien qui sont assis en méditation dans un trou entouré de neige, eh bien, ils vivent cet état de méditation. Ils vivent cette connexion où tout est concentré, l'énergie autour du nombril, je crois, si je me souviens bien des lectures que j'ai fait autour de Manipura Chakra. Et donc, cette pratique du tumo, elle peut être encore vécue avec un vrai maître spirituel, votre père. Patrick, c'était un grand privilège d'avoir fait ce bout de chemin. Déjà, le temps file. Je vous remercie. Je sais que votre horaire était très chargé. Nous avons réussi à nous parler. Je vous laisse, par contre, le mot de la fin, puisque mon intention est de connecter virtuellement votre entrevue avec la suite de cette rencontre international avec votre père Maurice Debar. Patrick, merci beaucoup je souhaite qu'on se reprenne à un moment donné et qu'on discute de nouveau de cette belle aventure qu'est le yoga et votre façon multiple, votre façon vraiment de vivre la santé, de vivre l'expérience humaine à travers la musique aussi, le sport et ce don de soi-même qu'on appelle le karma yoga. Merci, je vous laisse le mot de la fin.
Oui, eh bien, merci de c'est moi qui vous remercie en fait de cette opportunité de m'adresser à beaucoup de gens donc sur par l'intermédiaire de cet instrument merveilleux que nous avons à l'heure actuelle, donc qui est l'internet. Et juste corriger vous, tout ce que vous avez dit c'était parfait. La seule chose que je corrigerais, c'est que on se jette pas dans l'eau, non, d'accord.
Oui, effectivement.
On rentre tranquillement dans l'eau, vous voyez, voilà, sans hésitation non plus, mais on rentre tranquillement, voilà. D'accord. Alors le mot de la fin, c'est je reprends juste quelque chose que vous avez dit, qu'il continue à 86 ans et je peux vous dire qu'il a la pêche et que il lâchera pas. Voilà. Ouais, alors je vous embrasse, Daniel, et je vous remercie et je dis au revoir et à bientôt à tout le monde.
Alors voilà, c'était le témoignage de Patrick Daubard. La définition de l'éveil spirituel, la définition aussi du chemin de la vie, le pourquoi nous sommes ce que nous sommes et pourquoi nous aspirons à devenir ce que nous aspirons à devenir. Nous avons aussi discuté de son ouvrage, puisque lui aussi a publié un livre. Maurice Daubard, j'aime beaucoup laisser le dernier mot, mais vraiment le dernier mot, je ne dirai plus rien en vous invitant à faire un souhait, à parler, à rejoindre ces auditeurs, ces auditrices un peu partout dans la francophonie du yoga pour qu'on se laisse sur justement une prière. Hein. Nous avons débuté cette entrevue justement, hein, vous l'avez rapidement mise en contexte, que Jésus-Christ est votre gourou, que nous faisons place à l'amour au lieu de l'intellect. Il y a beaucoup de paraboles que je vous ai entendues et que j'ai lues dans vos ouvrages, et le dernier mot est à vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les événements ne sont jamais absolus, mais leurs résultats dépendent entièrement des individus. Le malheur est un tremplin vers le bonheur, du génie, un trésor pour l'homme habile, un abîme pour les faibles. C'est la parabole que j'ai trouvée, je ne sais pas qui l'a écrit, mais j'ai béni cet homme parce que je l'avais mis derrière ma chaise longue quand j'étais en cure intensive pendant des années. En cure intensive, lutter contre ce mal qui me bouffait à l'intérieur, la tuberculose. Et je l'ai mis derrière moi. Et tout le monde la lisait en passant. Elle m'a aidé. C'était ma parabole de pendant la période de ma maladie. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais je le bénis. Parce qu'il y a tellement de valeur dedans. Voilà, ça peut être pour moi le début et le mot de la fin. puisque ça m'a aidé à guérir. Allô?